BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs si vous nous rejoignez en direct dans Good evening business. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, alors c'était attendu, c'est acquis, mais c'est toujours ça de prix, comme on dit, la fameuse loi spéciale. Vous savez, qui va nous permettre de débuter 2025 sans trop d'encombre. Elle est passée ce matin en Conseil des ministres. Elle sera au Parlement la semaine prochaine. Pour ce qui est du futur Premier ministre, du futur gouvernement, là par contre, ça reste le flou le plus total. On va bien sûr en parler largement ce soir. Votre invité, Edwige.
Oui, on est toujours dans le futur. Là aussi, puisque c'est, on va parler de négociations commerciales. Ça y est, ça a commencé, ce grand marronnier. C'est déjà la foire d'empoigne. On en parlera avec Nicolas Facon. Il est le nouveau président de l'ILEC. L'ILEC, c'est la voix des marques. Bref, c'est l'association qui regroupe toutes les plus grandes multinationales et aussi les grandes marques nationales. Je peux vous dire que c'est déjà assez chaud et surtout c'est qu'il y a une hausse des prix à la clé.
C'est haut en couleur comme tous les ans, effectivement. Oui. On débriefe ça à 18h30, bien sûr. De quoi est-ce qu'on parlera ce soir? De Trump qui continue d'attirer les investisseurs, les industriels du monde entier. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui?
Vous investissez, oui.
Oui, vous investissez au moins $1 milliard sur le sol américain. Vous êtes prioritaire sur tout ce qui concerne l'obtention d'autorisation et de permis. Ça, c'est du business. Il faudrait que l'Europe s'en inspire quelque part, évidemment. Voilà le programme. On est ensemble, évidemment, jusqu'à 20h.
À tout de suite. C'est une bonne
Good evening business, le journal.
Donc c'est la bonne nouvelle, comme on dit, on passera l'hiver, puisque la fameuse loi spéciale du gouvernement pour empêcher la paralysie budgétaire a été présentée ce matin en Conseil des ministres. Il y a quand même une mauvaise nouvelle, ça se confirme aussi pour des millions de contribuables à la clé. Écoutez, le ministre démissionnaire du budget, Laurent Saint-Martin, ce matin après le Conseil des ministres.
C'est un projet de loi qui autorise d'abord temporairement le gouvernement à continuer à percevoir les impôts et les taxes existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année, qui ne permet donc pas de reconduire les mesures fiscales qui arrivent à échéance à fin 2024 et qui ne permet pas d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu, notamment sur l'inflation. Il faudra attendre une nouvelle loi de finances, la loi de finances pour 2025, pour permettre d'indexer cela. Et donc, si votre question est de savoir s'il il y aura bien 380 000 nouveaux foyers imposables avec la loi spéciale et une augmentation des impôts estimée pour un peu plus de 17 millions d'entre eux, la réponse est oui, avec la loi spéciale telle qu'elle est présentée aujourd'hui.
Voilà, ça n'empêchera pas le prochain gouvernement d'avoir à configurer et voter un nouveau budget après avoir été nommé, bien sûr, mais nous n'en sommes pas là, parce qu'Emmanuel Macron, lui, est toujours censé, en tout cas, nommer un Premier ministre d'ici demain soir. Mais avec quelle coalition en parallèle? Ce matin, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron aurait déclaré qu'à ce stade, le socle qui avait soutenu le gouvernement de Michel Barnier n'avait pas pu être élargi, notamment à l'issue des discussions qui se sont tenues hier à l'Élysée. Mais on reparlera bien sûr de tout cela jusqu'à 20h avec nos experts sur BFM Business. 19h02, en France toujours. Le gros message d'alerte aujourd'hui des acteurs français des télécoms. Ils le disent. On a d'un côté une guerre des prix épouvantable, on a en parallèle toujours l'obligation d'investir dans les infrastructures. Bref, tout ça devient absolument intenable. Raphaël Couder.
Malgré l'inflation, les prix des forfaits ont baissé de 9% en 10 ans, relève la Fédération des télécoms. Dans le même temps, le niveau d'investissement des opérateurs est lui resté très élevé, presque 14 milliards d'euros encore l'an dernier. Certes, moins que le pic atteint en 2021, mais ce plateau haut devrait se maintenir dans les prochaines années, ce qui rend l'équation difficile à résoudre, estime Romain Bonenfant, le directeur général de la Fédération française des télécoms.
Au niveau européen, la Commission estime que pour atteindre les objectifs de connectivité de l'Union européenne à horizon 2030, on a encore 200 milliards d'euros à investir. En même temps, on a des prix bas et puis on a une fiscalité spécifique qui est très importante. Donc cette équation-là n'est pas soutenable, il faut en bouger les termes.
Pour cela, le lobby des télécoms appelle les pouvoirs publics à se saisir des conclusions du rapport Draghi qui recommande de déréguler le secteur pour favoriser les fusions à l'échelle européenne.
Ça passe concrètement par de la simplification de la réglementation, de l'harmonisation de cette réglementation. On a une réglementation qui est très riche et cette réglementation aujourd'hui est complètement décalée.
La nouvelle commission considère qu'il y a aujourd'hui trop d'opérateurs et souhaite revenir à une vingtaine d'acteurs en Europe contre 140 actuellement. Une volonté qui se heurte pour l'heure à la résistance des 27 États membres soucieux de protéger les consommateurs.
Raphaël Couder, en Allemagne, ça y est, la campagne électorale a commencé. Le chancelier Olaf Scholz a déposé aujourd'hui une demande de vote de confiance au Parlement pour le 16 décembre, donc lundi prochain. Il a toutes les chances d'être rejeté, ce qui conduirait donc, comme on s'y attend, à des élections législatives anticipées. A priori, ça serait à la fin du mois de février. Donald Trump, lui, qui continue donc de draguer les investisseurs industriels du monde entier, il a annoncé aujourd'hui que toute personne qui investirait au moins $1 milliard sur le sol américain bénéficierait de procédures administratives accélérées, que ce soit pour tout ce qui est permis et autorisation, dans l'environnement notamment. Mais ça, je vous le disais, on en reparlera à 19h30 avec nos experts sur BFM Business. Et puis, on va rester aux États-Unis. On vous avait parlé la semaine dernière de l'assassinat en pleine rue à New York du patron du premier assureur santé américain. Eh bien, depuis ces événements, les patrons, même des petits groupes du secteur, se claquent mûrs. Bonsoir, Ben Abalay, vous êtes à Washington. Ils ont peur parce que sur les réseaux, beaucoup se sont réjouis de ce qui s'est passé apparemment, Benoît.
Oui, d'après le Wall Street Journal, les dirigeants de petites compagnies d'assurance américaines qui ne s'étaient jusqu'ici jamais inquiétés de leur sécurité disposent désormais d'un service de protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un autre exemple, Centene, un autre assureur santé américain, a déclaré jeudi dernier qu'il ne tiendrait pas sa réunion d'investisseurs en personne prévue demain à New York et qu'il proposerait plutôt un programme virtuel. Suite au meurtre du PDG de United Healthcare, de nombreux internautes américains ont en fait publié des messages au vitriol sur les réseaux sociaux. La publication suivante: aujourd'hui, je pense à la fois où United Healthcare a soudainement décidé d'arrêter de payer ma chimiothérapie sans prendre la peine de me le dire, a par exemple été vu près de 2 millions de fois sur le réseau social X. Dans une vidéo envoyée à ses salariés, le patron de United Health Group, parent de United Healthcare, a dénoncé des messages qui ne reflètent pas la réalité et assuré veiller à ce que les soins soient sûrs, appropriés et dispensés au moment où les gens en ont besoin. D'après une enquête menée en 2023 par un organisme indépendant auprès de 3600 Américains assurés, 81% d'entre eux avaient une opinion positive de leur assurance santé, mais 58% avaient rencontré un problème à ce sujet au cours de l'année écoulée.
Merci beaucoup Benoît Ballet, donc à Washington pour BFM Business. Et puis dans l'actualité entreprise et toujours aux États-Unis, il faut croire que cette activité qu'on disait prometteuse est maudite. General Motors vient d'annoncer qu'il arrêtait de développer sa filiale Cruise dans les robotaxis. Ça confirme que beaucoup se lancent, mais pour l'instant, personne ne réussit. Justine Vassogne.
Une flotte de robotaxis, ça coûte très cher. Voilà comment GM justifie l'abandon de Cruise depuis 2016. Le constructeur y a investi plus de 10 milliards de dollars. L'année dernière, l'histoire vire au cauchemar. Un des robots taxi Cruise en libre circulation à San Francisco traîne une piétonne sur plusieurs mètres sous ses roues. Cruise essaye d'abord de camoufler l'affaire, mais se fait rattraper par les autorités américaines qui lui enlèvent son permis de rouler. L'entreprise licencie son fondateur et un quart de ses employés. Elle semblait remonter la pente ces derniers mois et avait recommencé à tester ses robotaxis dans plusieurs villes. Pas suffisant pour GM, qui évoque aussi un marché trop concurrentiel avant lui. Ford a aussi jeté l'éponge. Seuls un ou deux acteurs peuvent survivre, expliquent certains analystes. Aujourd'hui, c'est Waymo, filiale d'Alphabet, qui tient la corde. Ses taxis roulent à Los Angeles, à San Francisco, à Phoenix. Tesla, un temps en retard, espère commercialiser ses premiers Cybercabs en 2027 et profiter de la proximité d'Elon Musk avec Donald Trump pour assouplir quelques contraintes réglementaires.
Eh ben, on les attend toujours, les robotaxis. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business, 18h07. On va sur les marchés. Étienne Braque avec nous ce soir. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Une petite hausse ce soir à la Bourse de Paris.
En effet, qui a permis au CAC 40 de retrouver les 7400 points à la clôture. 7422 points, c'est en effet du vert. Plus 0,4% ce soir à la clôture. Après, souvenez-vous, une baisse de quasiment 1% hier. Pas beaucoup de volume, hein, toujours pas de grande conviction. On verra ce que va nous dire demain la BCE, qui devrait annoncer une nouvelle baisse de taux. Tout se joue une nouvelle fois aux États-Unis avec le Nasdaq qui a touché un record pour la première fois. Figurez-vous qu'il a touché les 20 000 points grâce à de très belles variations variation aujourd'hui sur Apple qui est sur un plus haut historique. Broadcom également qui a gagné plus de 3% à l'ouverture, puisque vous avez des informations de presse qui évoquent que Broadcom est en train de développer une buse dédiée à l'intelligence artificielle pour Apple. Et puis dans le même temps, vous avez également Alphabet qui était en hausse de plus de 3% à l'ouverture, avec notamment une nouvelle version de Gemini. Vous savez, son système avec l'intelligence artificielle, une version 2.0. Donc forcément, les GAFAM qui sont en forte hausse, voire même sur certaines valeurs, sur des plus hauts historiques. Tout cela porte l'indice Nasdaq et l'ensemble des indices aux États-Unis.
Merci beaucoup, Étienne. Bah justement, regardons ce que fait Wall Street. Précisément, le Dow Jones, plus 0,1%, c'est calme, 44 290 points. Puis l'indice Nasdaq, donc, qui est repassé sous les 20 000, mais qui gagne quand même 1,5%, 19 000 990. Tout ça à la mi-séance. 18h09, les négociations commerciales ont commencé entre la grande distrib et l'agroalimentaire. On en parle avec le patron de l'ILEC, Nicolas Facon. La grande interview avec Edwige Chevrillon dans deux petites minutes sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, on va parler des négos, des négociations commerciales. Ça y est, c'est parti. Bonsoir Nicolas Facon.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau président de l'ILEC. Alors l'ILEC, la voix des marques, c'est l'association en fait qui regroupe quelques 115 marques multinationales, les plus grandes marques, mais aussi des marques nationales, et qui, quoi, grosso modo, vous pesez à peu près 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé, c'est 110 000 emplois, 500 000 emplois au total. Donc, vous pesez lourd. Vous me direz, dans les négos commerciales, il faut mieux peser lourd, parce que sinon, on n'est pas grand-chose. Vous, merci d'être là, parce que le moment est déjà important pour vous. Les négos, elles ont commencé officiellement le 1er décembre. Et c'est sûr que vous faites partie un petit peu du gibier, c'est-à-dire que entre les distributeurs, voire les agriculteurs, parce qu'on sent qu'il y a quand même, il s'est passé quelque chose, et bien qu'est-ce qui est en ligne de mire pour ces négociations commerciales? Ce sont les industriels de l'agroalimentaire, l'ANIA, et vous, les grandes marques, parce que c'est vous qui demandez qu'il y avait des exigences absolument colossales. On verra ça dans un instant. Juste un point, est-ce que le fait d'avoir cette situation politique où tout est bloqué, il n'y a plus de ministres ou que des ministres démissionnaires, est-ce que ça complique la donne ou pas?
Ça complique la donne pour les entreprises, parce que ce que les entreprises détestent, c'est l'incertitude. Et c'est vrai que là, on rentre à nouveau dans une période de flou qui a démarré depuis le mois de juin. Donc il y a eu juin la dissolution, nouveau gouvernement en septembre, censure en décembre. Donc on a déjà perdu 6 mois.
Oui.
Ce dont les entreprises ont besoin, c'est un cap, une direction et des mesures. Et là, on va voir, effectivement, il va y avoir la loi spéciale qui va être votée, qui va être examinée, oui. Votée. Peut-être un nouveau budget quand on aura un nouveau gouvernement. Donc tout ça, ça crée de l'incertitude. Et c'est vrai que les entreprises détestent ça. Elles ont besoin de visibilité. Elles ont besoin aussi de se projeter.
Mais donc, est-ce que ça a une influence?
Ne serait-ce que sur les investissements. C'est-à-dire que savoir si on peut investir ou pas en fonction de quelle sera la fiscalité, quelles seront les mesures qui vont être prises pour corriger le budget, puisqu'on a un budget qui est un déficit, oui, abyssal. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes et ça,
est-ce
c'est vrai
que
c'est
gênant. Est-ce que vous voyez déjà parmi vos membres, vos adhérents, est-ce qu'il y en a déjà, notamment des multinationales américaines, suisses, qui vous disent, tiens, nous, on investit moins en France?
Alors là, dans l'immédiat, non, mais c'est vrai que c'est toujours la difficulté. Expliquer, en fait, à un actionnaire qui n'est pas français, la complexité de la vie politique française, de l'univers de la grande consommation, c'est toujours problématique pour les patrons de boîtes, de filiales, d'entreprises étrangères. Oui.
Alors, dans les tuyaux, il y avait beaucoup de choses. D'abord, il y avait ce premier comité de suivi, oui, des négociations commerciales avec les différents ministères. Ça devait se tenir le 17 décembre, donc la semaine prochaine.
Ça a été annulé hier soir. Bon, c'est un peu logique, hein, puisque les cabinets ministériels sont toujours en place, mais ils expédient les affaires courantes. Donc c'est vrai que c'est un des exemples de la situation dans laquelle on est, où sans gouvernement et sans ligne directrice, ces suivis-là, ils sont super importants, hein, puisqu'on regroupe à la fois les ministères de l'agriculture, de l'économie, l'administration, les différents acteurs, c'est-à-dire à la fois les associations comme la nôtre d'industriels, les distributeurs, pour veiller de manière régulière jusqu'à fin février, de voir si les négociations se passent bien. Donc c'est vrai que là, on a un outil de régulation qui manque. Alors j'imagine qu'il va être à nouveau mis en place.
Et vous
ne
pouvez pas le faire,
place.
Vous, sans ministère, non?
On a besoin de l'État, on a besoin du pouvoir public quand même pour veiller à ce que finalement la décision politique soit appliquée.
Nicolas Facon, autre gros dossier qui était sur la table, je ne parle pas de la loi Egalim 4, 5, non, la loi d'Escrozaille. Ça, normalement, il devait avoir quelques retouches à la loi d'Escrozaille. La loi d'Escrozaille qui, finalement, vous est plutôt favorable. Certains grands distributeurs voulaient que ça soit, enfin, qu'on fasse une croix dessus. Où est-ce qu'on en est là? Tout est mort là encore?
Alors, il n'y aura pas de réforme là pour les négociations qui ont démarré le 1er décembre, comme vous l'avez dit, et qui vont s'arrêter au 1er mars. Là, c'est trop tard en fait pour bouger quoi que ce soit. S'il y a des choses à faire bouger, ce sera pour 2026, mais je dirais qu'il faut s'en occuper, maintenant. Alors, la loi, est-ce qu'elle était favorable à l'industrie? Je ne pense pas. C'était plutôt des mesures de bon sens qui avaient été mises en place.
C'est ce que disent ici même, évidemment, les grands patrons des grands distributeurs.
Oui, mais je pense qu'il faut sortir de ces polémiques-là. Je pense qu'il faut regarder au fond. Et en fait, le point, en fait, c'est de se dire, s'il y a des choses à faire bouger dans la loi, il faut commencer par évaluer. C'est-à-dire qu'on a une habitude française, c'est qu'on fait des lois tous les deux ans. Les 8 dernières années, il y a eu 5 lois successives. Donc avant d'en rajouter une, je pense qu'il faut faire la première chose à faire, et les ministères sont d'accord, et l'administration aussi, je pense, il faut faire l'évaluation de ce qu'ont donné les lois, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et après d'ajuster. Et puis, une dernière chose, encore faut-il que les lois soient respectées. Et c'est là où on a un problème. C'est pour ça que la commission de suivi des négociations commerciales est hyper importante. C'est encore faut-il que les lois soient respectées. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, en tout cas sur 2024, on s'est aperçu que les différents dispositifs de la loi étaient de moins en moins respectés.
Par exemple, par qui? Quoi? Donnez-nous des exemples.
Un point très important des lois Egalim, alors sans rentrer dans un détail trop compliqué, les lois Egalim avaient pour objectif d'assurer la pérennité en fait de l'agriculture française à travers le revenu, de sanctuariser le revenu des agriculteurs. Et donc dans les négociations, la part de la matière première agricole ne doit pas être négociée entre l'industriel et le distributeur. On était l'année dernière en 2023 à un taux de respect de 85%, on est tombé en 2024 à 67%, donc on voit qu'on est sur une pente descendante.
Oui, mais du reste, il y avait encore un communiqué tout à l'heure sur la colère de la filière laitière, donc qui se retourne en même temps contre des grands industriels. Alors, font partie de votre association.
Alors, il faut comprendre la position des agriculteurs, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu les lois Egalim ont essayé de corriger des effets de marché qui étaient, néfastes pour le revenu des agriculteurs, mais c'est vrai que ce qui s'est passé en 2022-2023, l'hyperinflation a touché aussi le monde agricole, avec des coûts de production qui ont explosé.
Bien sûr,
On a les industriels ont remonté le prix des matières premières agricoles, mais ça a juste compensé. Donc la problématique du revenu agricole reste toujours posée. C'est pour ça qu'aujourd'hui la colère des agriculteurs est toujours là.
Oui, on y reviendra bien sûr, Nicolas Facon. Justement, si on regarde, parce que ces négos là, donc vous avez ouvert depuis le 1er décembre, pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là vous avez toutes les grandes marques, toutes les multinationales, etc. Les industriels ont déposé leurs tarifs.
Leur demande tarifaire.
Leur demande tarifaire,
voilà,
oui.
Exactement.
On en est où? C'est quoi? Alors, c'est plus 7%, plus 8%?
Non. Alors, les chiffres qu'on a, l'estimation qu'on a, c'est une médiane aux alentours de 4%, plus 4%, avec un écart entre 2,5 et 5. Ça recouvre, des différences entre les différentes filières, les différentes catégories et les industriels.
Quels sont ceux qui demandent le plus? Quels sont ceux qui demandent le moins? Parce que certains, je m'en souviens, j'ai rencontré des industriels, ils disent, mais nous, on a un rattrapage à faire.
Alors,
c'est clair, on a un rattrapage à faire. Ou même là, regardez l'ANIA, qui est le plus gros lobby, l'industrie agroalimentaire. Ils disent que ces industries subissent une hausse des coûts de revient pour 2 entreprises sur 3, une dégradation des marges pour près d'une entreprise sur 2, malgré un besoin d'investissement croissant, parce qu'on n'arrête pas de le dire qu'il faut qu'ils investissent. Donc, l'ANIA en appelle à la responsabilité de la grande distribution. Vous êtes pareil.
Alors, je rejoins les propos de l'ANIA. Ce qui s'est passé en 2022-2023, un choc d'inflation qui a touché tout le monde. L'industrie, nos adhérents, ont eu une hausse des coûts de production de 4,5 milliards sur 2 ans. Ils en ont répercuté que 3 milliards. Ça veut dire qu'ils ont absorbé 1,5 milliard d'inflation sur leurs marges. Et leurs marges ont baissé. Les tarifs, je disais à peu près une médiane à 4, à plus 4%, c'est constitué à la fois de hausse de matières premières, parce que certaines matières premières ont baissé, comme par exemple les céréales, mais pour le reste, si vous prenez le lait, par exemple, le prix payé aux producteurs laitiers, depuis un an, c'est plus 28%. Le beurre, c'est plus 63%.
La viande... Quand on regardait Lactalis, il proposait pas plus 23%, hein. J'ai cru comprendre.
Alors, je vais pas rentrer dans la politique de telle ou telle entreprise, c'est pas mon rôle, mais quand je regarde les chiffres de la filière, on est effectivement sur une revalorisation. On a la viande bovine qui est à plus 9, la volaille qui est à plus 9 aussi. Et puis après, il y a des choses comme le riz, alors ça pousse pas en France, qui est à plus 26. Vous avez le café qui a plus que doublé. Ouais, le cacao également. Donc voilà, donc on a des phénomènes comme ça.
Ok, donc... Ouais.
Et après, il y a les coûts de production. Parce qu'effectivement, on a ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est pour ça que le discours de la distribution qui demande des baisses, alors on avait entendu en septembre, certains avaient dit on veut des baisses de 10 à 15%, c'est complètement décorrélé de la réalité économique.
Non, on n'est pas 10 à 15%, on est quand même à moins, mais on est sur une baisse parce que c'est ce que demandent leurs clients, les Français.
Oui, mais en fait... Si on revient sur les coûts de production, les prix 2024 que paye l'industrie, l'électricité, c'est 74% plus cher qu'en 2021. Le gaz, c'est la même chose. Les salaires ont augmenté, en fait. Ils ont augmenté de 16% en 4 ans. Et c'est très bien, puisque ça a permis de suivre l'inflation. Okay.
Mais alors, concrètement, donc vous, on a bien compris, autour de 4%, mais ça fait grosso modo entre 2 et 7%. Il y a des raisons, vous les expliquez là. Mais de l'autre côté, vous avez donc les distributeurs. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on voit, il y a déjà des grandes marques. Je pensais à Coca-Cola, qui fait partie de votre association. Il y a des grandes marques qui ont été déréférencées. Et il y en a de plus en plus. Et on voit bien que les MDD, les marques de distributeurs, comme on dit, sont en train de progresser de manière considérable. Donc il y a un vrai risque pour les marques reconnues, comme les vôtres.
Oui, alors vous avez raison. C'est-à-dire que...
C'est la guerre des marques, quoi.
Alors, c'est pas la guerre des marques, c'est-à-dire que...
Entre les MDD, enfin les marques de distributeurs, mais... face aux grandes marques reconnues.
Alors, il y a eu un arbitrage des consommateurs en période d'inflation qui ont plutôt été vers les marques de distributeurs. Aujourd'hui, ça s'est calmé et les marques nationales reprennent, en fait. Et c'est normal.
C'est combien, quoi
En fait, vous êtes... La dernière période, les marques ont repris 1,7% de croissance volume. Et il y a quelque chose qu'on regarde qui s'appelle la montée en gamme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu, en 22-23, les gens avaient plutôt tendance, pour certains, à passer de la marque à la MDD. Là, on retrouve un effet inverse depuis 7 mois.
C'est 50-50, c'est 55.
Non, les marques représentent à peu près 45% en fait de la consommation et les MDD 36%. Ouais. Voilà. Donc on a eu un phénomène d'arbitrage de correction, mais voilà, ça reste, on reste sur des équilibres.
Il y a combien de différenciations?
Comment?
Et combien de différenciations?
Ça, je peux pas vous dire parce que j'ai pas le chiffre, mais. Le déréférencement, en fait, ça veut dire qu'il y a un constat d'échec de la négociation et qu'on n'a pas trouvé un accord. Mais je dirais que d'une façon ou d'une autre, il y a bien un moment où, que ce soit un grand distributeur, une grande marque, il va bien falloir qu'ils se mettent d'accord. Donc c'est tout l'objet des discussions qui démarrent là depuis le 1er décembre et qui vont s'arrêter au plus tard fin février. Le point d'inquiétude qu'ont les industriels, c'est qu'aujourd'hui, en face de nous, il n'y reste plus que 4 clients. C'est-à-dire que vous avez vu le rachat de Cora Match par Carrefour, Casino par Intermarché.
Donc il n'y a plus que 4 grandes clients.
Il n'y a plus que 4 grands clients. Vous
et
avez
en
face.
Européenne.
Voilà, vous avez 25 000 industriels et vous avez 400 000 agriculteurs. Donc on voit bien ce goulot d'étranglement et ce déséquilibre qu'il peut y avoir. Et il y a le point que vous nommez qui est très très important, et ça c'est vraiment un phénomène qui nous inquiète, c'est la délocalisation des négociations à l'étranger pour 3 centrales sur 4. Donc ça c'est vraiment inquiétant.
Alors ça, les grandes centrales européennes, mais justement, quand on écoute Michel-Édouard Leclerc, voire d'autres, il dit ces grandes centrales, ça nous permet de massifier nos achats. Ça nous permet, en tous les cas, c'est l'argument de la fédération, la FCD du commerce et de la distribution, d'être fort par rapport à des L'Oréal, par rapport à des Coca, des Mars, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Alors moi, j'apporte quelques nuances par rapport à ça. La première, c'est que quand on négocie dans ces centrales, ce ne sont pas les groupes mondiaux qui vont négocier, ce sont les filiales françaises. Et quand vous avez en face de vous un client français plus un client allemand plus un client espagnol, vous allez venir avec les 3 filiales. Donc le rapport de force, il est toujours déséquilibré. Ces centrales d'achat, elles pèsent, alors le chiffre d'affaires, tenez-vous bien, c'est entre 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et massifier les achats, je dirais que c'est surtout massifier la pression que ces centrales mettent sur les industriels. Puisqu'effectivement, on vous dit, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, non seulement vous allez avoir des répercussions des sanctions en France, mais vous aurez en même temps des sanctions en Allemagne et en Belgique ou en Espagne. Donc on a un pouvoir de coercition qui est très très fort, qui est démesuré, qui peut entraîner toute l'industrie en déflation et avec des risques colossaux à la fois sur l'emploi et également sur les filières. Mais je dirais...
Oui, mais à l'inverse aussi, eux sont face à des très très grands groupes, des groupes mondiaux, de taille mondiale.
Oui, mais vous avez un écart de 1 à 100 en fait, en termes de taille. Donc le déséquilibre est toujours là. Et puis après, ce qui est plus gênant, et ça c'est un vrai point d'alerte, c'est pourquoi est-ce que des produits qui sont fabriqués en France avec de la matière première française qui ne quittent pas le territoire de la France doivent être négociés à Bruxelles, Amsterdam ou Madrid? La réponse, elle est simple, c'est pour échapper aux lois françaises. Et donc là, on a un vrai problème.
Ouais. Et on me dit qu'un tiers des contrats n'ont pas été signés à cause justement de ces centrales d'achat. C'est vrai ?
C'est vrai. Au moment où on se parle, les contrats 2024, dans ces centrales internationales, il y en a plus de 25% qui ne sont toujours pas signés, alors qu'ils auraient dû être signés cette année fin janvier. Donc on a un vrai problème, effectivement.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? C'est quoi?
Ça veut dire qu'ils ne respectent pas la loi. Et c'est pour ça, justement, qu'ils vont à l'étranger. C'est pour ne pas respecter la loi. Donc, récemment, il y a eu des condamnations. Ça a été le cas de Carrefour, ça a été le cas
de
Leclerc.
Oui, justement, j'allais y venir. Oui.
Donc ça, c'est une bonne chose. Mais pour autant, ça n'empêche pas les centrales de continuer et de continuer à négocier à l'international.
Alors, de l'autre côté, effectivement, Carrefour a été très lourdement sanctionné parce qu'il n'avait pas signé ses contrats avec les multinationales. Et Carrefour dit... Ouais, d'accord, mais c'est parce qu'en fait, les multinationales, elles ont joué la montre. Elles ont laissé traîner les négociations.
Non, il n'y a aucun intérêt à laisser traîner les négociations. Vous avez intérêt...
Parce que du coup, à Carrefour, une grosse amende.
Oui, mais il n'y a pas d'intérêt à laisser traîner les négociations. C'est-à-dire que si on regarde en France, là où la loi s'applique, vous avez toutes les négociations qui se sont terminées en temps et en heure. Et comme par hasard, à l'étranger, les négociations durent. Donc on voit bien, et le deuxième indice, je dirais, du côté néfaste de ces centrales-là, c'est le fait que le respect de la sanctuarisation de la matière première agricole, c'est là où c'est le plus bas. On est sur un taux de respect qui est de 15 à 30%, quand en France, il est, je vous l'ai dit, aux deux tiers. Donc on voit bien que ces centrales-là, elles sont faites pour détourner la loi.
Ça veut dire, je reviens un instant sur ce un tiers des contrats qui n'ont pas été signés, c'est quand même énorme un tiers des contrats. Ça veut dire que vous n'avez aucun recours possible?
Non.
Non.
Ben non, non, non.
Parce
non,
que
non.
Là, c'est au niveau des centrales d'achat, donc vous n'avez pas un recours contre Carrefour, Leclerc, Système U.
C'est pas à l'industrie d'attaquer ses propres clients. C'est aux autorités compétentes d'intervenir.
C'est qui les autorités compétentes?
Il y a à la fois une.
Quand c'est en Belgique, c'est quoi? C'est le roi
alors,
de Belge.
Il y a là, c'est la DGCCRF en fait qui est intervenue et qui a demandé, qui est française. Mais vous avez raison, il faut porter ce problème-là au niveau européen et cette inquiétude. Des industriels français, je peux vous dire qu'elle est partagée par les autres industriels des autres pays. Donc là, on a un sujet.
Vous allez demander quoi sur le plan
Ce qu'on va demander, c'est tout simplement, c'est que les lois du pays s'appliquent là où les pays sont achetés et vendus, puisque c'est le cas. Encore une fois, le produit qui est fabriqué en France, il ne passe pas les frontières, il reste en France. Donc il est normal que les lois françaises s'appliquent. D'ailleurs, c'est une demande des agriculteurs, puisque la FNSEA a demandé exactement la même chose.
La question, quand même, c'est un peu mal parti, tout ça.
Disons que c'est...
En plus, il n'y a pas de ministre de l'Agriculture pour mettre du rouage, un petit peu d'huile dans les rouages.
Non, mais on espère déjà que la séquence du nouveau gouvernement arrive rapidement et encore une fois qu'on ait une orientation des mesures, que ce qui s'est discuté depuis 3 mois, puisque ça a bossé quand même dans les cabinets ministériels, donc j'espère que ce qui a été travaillé sera repris et non pas annulé. Et puis derrière, encore une fois, on a besoin de régulation. On a besoin de régulation pour éviter des effets de marché qui sont trop destructeurs.
Un mot sur le Mercosur. Signé comme vous regroupez des marques très différentes de tous les secteurs, j'imagine.
Oui, j'ai pas d'avis parce qu'on a des entreprises.
De Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Non, mais on a des entreprises qui exportent effectivement, puisque vers les pays d'Amérique du Sud, il y a des filières qui peuvent être touchées. Je pense qu'il faut comprendre, l'inquiétude de certaines filières, comme la filière bovine, qui considère, et quand on écoute ce qu'ils demandent, c'est de dire on veut être avec une compétition égale, c'est-à-dire on a beaucoup de normes qualitatives environnementales en France et c'est plutôt une très bonne chose. Maintenant, on veut que les produits qui rentrent aient les mêmes normes, donc des clauses miroirs et qu'elles soient contrôlées. Et ça, c'est super important.
Ouais. Confiant, pas confiant. Pas confiant.
Il faut toujours être confiant parce que sinon faut changer de métier. Non, mais il faut être confiant. Je pense que au-delà des négociations, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de sujets qui sont très importants de remettre sur la table. C'est plutôt des sujets moyen long terme. On a beaucoup parlé de souveraineté. Il faut parler aussi de compétitivité, il faut parler d'attractivité et de transition.
Ouais, voilà. Il nous faut encore 24 heures pour en parler. Merci beaucoup, Nicolas Facon. Donc, le patron, le président de l'ILEC, donc, il regroupe toutes ces multinationales.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts BFM.
Les experts BFM sont là, 18h36, première partie de nos experts jusqu'à 19h pour décrypter l'actu, encore bien pléthorique ce soir. Tant mieux, évidemment, Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Pauline Tadevin, de la direction de BFM Business, est également avec nous. Bonsoir Pauline,
bonsoir.
Bienvenue. Et puis, nous accueillons Julien Damon. Bonsoir Julien, professeur à Sciences Po. Merci. Alors Emmanuel me disait, finaliste du Grand Prix de l'économie.
Finaliste du prix du livre d'économie de l'année. Ils sont trois finalistes pour son livre sur la natalité.
Ouais.
À Julien, il a comme rival notamment Antoine Fouché.
Qui sera là demain soir. Hein.
Qui sera là demain soir.
Ouais, ouais.
On avait reçu dans la librairie de l'Écho. Ouais. Tous les deux, on les avait dans la librairie de l'Écho de rentrée au MEDEF fin août. Voilà, donc et on est content d'avoir démarré l'année avec ce qui est considéré comme deux des meilleurs livres d'économie de l'année.
Il n'y a pas de hasard.
Non, il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard.
Toutes nos félicitations, tout cela vient s'ajouter. Voilà. Combien de que sais-je vous avez écrit? Sept?
Six.
Quand même.
Bon.
Six que sais-je quand même, s'il vous plaît. Hein.
Et bientôt professeur à l'École nationale des Ponts des Chaussées.
C'est Noël.
L'actualité. Il n'y a pas que des autodidactes.
Il
n'y
a pas que
des
mauvaises nouvelles comme quoi finalement. Voilà, ça en fait des choses. Bien. On va parler de nos péripéties budgétaires dans un instant. Juste Pauline, vous suivez tout ce qui concerne l'agriculture, la grande distribution, l'industrie agroalimentaire pour BFM Business. Un mot de ce que nous disait Nicolas Facon, donc le patron Lillet qui défend les industriels. Parce que depuis le décembre, si ça fait pas les gros titres, ça y est, c'est reparti pour ces fameuses négociations commerciales qui durent 3 mois, qui est un moment éprouvant pour tous les acteurs de la profession. Comment ça se
présente? Ça décide des tarifs et des produits qui seront dans les rayons après. Donc c'est hyper important, forcément, tous les ans, c'est le même rendez-vous. Là, il nous confirme d'une part que du fait du blocage politique, le comité suivi des négociations commerciales qui a lieu régulièrement et qui devait avoir lieu le 17 décembre est annulé. Il a été annulé hier soir, nous a dit le patron de l'ILEC, hein, dans ce flou politique. Bon, bref, annulé ou reporté, on ne sait pas pour l'instant. Et oui, on rentre encore dans cette mécanique des deux camps, des industriels de l'agroalimentaire d'un côté, des distributeurs de l'autre. Alors les industriels qu'ils représentent, puisqu'ils représentent beaucoup de gros industriels, notamment des multinationales, mais pas que, hein, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulés en ce qui concerne l'ILEC, des industriels qui disent que ils ont des coûts qui augmentent, que certaines matières premières, certaines ont baissé, mais d'autres n'ont pas baissé, et qu'il faut bien les répercuter. Il explique que les industriels ont absorbé 1,5 milliard d'euros sur leur marge ces derniers temps, qu'ils ont déjà fait beaucoup d'efforts, mais qu'il faut quand même passer des hausses de tarifs. Et puis de l'autre côté, il y a les distributeurs qui disent bah moi, celui qui décide, c'est le consommateur, et le consommateur, il veut des prix bas. Et du coup, je vais aller chercher des baisses de prix dans ces négociations commerciales. Les distributeurs qui demandent plus de transparence aux industriels, qui leur envoient la balle en leur disant arrêtez de nous embêter avec vos centrales d'achat européennes qui étouffent les négociations et qui les envoie à un niveau européen. Voilà, il y a tous ces... On est re-rentré dans cette guerre qui a lieu tous les ans et qui se poursuit, mais qui est quand même déterminante puisque au bout, il y a les tarifs des produits qui seront dans les supermarchés. Donc, et puis au milieu de ça, il y a les agriculteurs, les producteurs.
Évidemment. Donc lui dit, on va demander en moyenne des hausses de prix de 4%.
Il dit que ce qui a été déposé en moyenne, c'est 4%, oui. Ce qui a été demandé. Et donc, ce sur quoi il commence à négocier.
Oui, il commence à négocier. On va jusqu'à la fin février. Ça dure trois mois. C'est ça, voilà. C'est d'une violence absolue tous les ans. On raconte ça régulièrement, effectivement. Il n'était pas question un petit peu de casser cette espèce de sacro-saint rendez-vous de la fin décembre jusqu'à la fin février. On disait, en fait, vu les fluctuations de prix, il faudrait apprendre à négocier pas toute l'année, pas en permanence, mais plusieurs fois dans l'année. Enfin, je sais que c'était un débat qui avait émergé.
Oui, alors il y a beaucoup d'acteurs qui préconisent cela. Hein, ouais. Notamment, on a entendu le patron de Coopérative U, désormais de Système U, ouais, de Michel ouais, Cher, qui disait ça. Notamment, il y a plein d'acteurs qui ont dit cela. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en suspens avec ce flou politique, hein, en effet, enfin, Emmanuel.
Donc ça veut dire que ça va être encore le moment où les patrons de grands groupes de la grande distrib vont encore faire la tournée des popotes et des plateaux de TV pour mettre la pression sur les industriels, quoi. Ça va se passer comme ça, comme tous les ans, là, dans les prochaines semaines, finalement.
Disons que le contexte économique est quand même assez radicalement différent de celui qu'on a connu depuis deux ans. C'est-à-dire que quand on était dans au cœur vraiment de la vague d'inflation, il y a eu ce rôle que se sont attribués les grands patrons des réseaux d'hypermarchés. Honnêtement, à part Michel-Édouard Leclerc, personne ne les connaissait vraiment. Maintenant, ils sont tous devenus des
stars. Tout le monde connaît Dominique Schellcher, tout le monde connaît le patron de Lidl,
absolument.
Michel Pirot.
Absolument. Et donc, effectivement, et c'est vrai que ce levier de « nous sommes les défenseurs du pouvoir d'achat pour les consommateurs » était un levier qui était extrêmement pratique, finalement, dans les négociations. Et c'est vrai que, sur ce plan-là, on peut dire que, quand même, la grande distribution avait remporté un petit peu la manche de la communication face à laquelle les grands industriels n'étaient pas extrêmement à l'aise et n'avaient pas... Après, la négociation, elle dépend quand même extraordinairement de votre taille et de votre pouvoir de négociation.
Là, il dit il y a quatre grands clients côté grande distrib, il y a 25 000 marques et puis il y a 400 000 agriculteurs. Effectivement, c'est plus facile de représenter la grande distrib que les agriculteurs ou la...
Alors, il y a quelque chose sur lequel ils se rejoignent tous de plus en plus. Je trouve que le ton a changé. La souveraineté alimentaire et la nécessité de maintenir un tissu industriel en France, etc. Parce qu'ils le rappelaient, ils ont un problème aussi et ça rejoint un peu ce que disait Emmanuel, et notamment l'ILAC a fait une étude avec EY l'année dernière pour montrer tous ces géants, les multinationales qui regardent la France et qui commencent à freiner les investissements. Voilà. Ils disent, la France c'est trop compliqué, maintenant on envisage de fermer une ou deux lignes de production ci et là. Et ça c'est le gros warning qu'allument les industriels et qui disent, en fait on est tous dans le même bateau. Parce que s'il n'y a plus d'usines pour produire, tout ça est lié.
C'est le consommateur qui s'adaptera, Julien Damon, à l'arrivée, voilà, c'est toujours pareil.
Je crois que là, en dernière course, c'est lui qui décidera s'il achète ou non. Mais je voudrais ajouter que dans ce contexte particulier, nous avons la mobilisation des agriculteurs.
Oui. Qui est un petit peu en train de s'effilocher, là, quand même.
Alors, c'est comme les sujets de dentifrice, là, vous savez, quand on appuie sur le tube,
voilà,
ils sortent et on ne sait jamais comment les faire rentrer. Mais semble-t-il, donc, ils n'ont pas encore été bien entendus. Mais
parce que je crois que
les pouvoirs publics se méfient toujours de nos amis agriculteurs.
Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas assez souligné et qui va plutôt dans le bon sens pour les agriculteurs, c'est que derrière, effectivement, tous les mouvements anti-Mercosur, etc., il faut reconnaître que sur beaucoup de produits agricoles made in France, les prix sont plutôt pas mal. Si vous demandez aujourd'hui, et si vous regardez aujourd'hui les prix des viandes, par exemple, que ce soit le porc, que ce soit le bœuf, etc., objectivement, on est sur des niveaux de prix qui sont pas du tout désastreux pour les agriculteurs. Ça explique aussi sans doute en partie le fait que on les entend peut-être un peu moins. Après, il faut reconnaître que s'il y a un point qui s'est quand même amélioré ces dernières années, ça a été du côté de ces négociations, alors ces accords qu'ils appellent souvent tripartites, en fait, entre un industriel,
avec les agriculteurs,
une chaîne,
dans la boucle,
et les agriculteurs, pour essayer finalement de remettre un peu moins de pression sur cette partie-là de la filière. Donc ça progresse doucement, mais on voit bien qu'effectivement le consommateur décidera, et le consommateur, lui, il veut quand même d'abord et avant tout des prix bas.
Et on suivra évidemment la façon dont ces négociations vont se dérouler. On le disait, ça a commencé début décembre, c'est censé se conclure fin février, mais ça va être long, il va s'en passer des choses d'ici là. Merci beaucoup Pauline Tadevin qui est passée nous voir ce soir, merci infiniment. 18h45, alors on apprend à l'instant qu'il n'y aura pas de nomination de Premier ministre ce soir. Quelle surprise, a priori ça sera donc pour demain, enfin si on en croit Emmanuel Macron, ce qu'il avait dit 48 heures, ça sera d'ici demain.
Ça fait plusieurs jours qu'il nous dit que c'est pour demain quand
oui,
même.
Mais là, il reste encore 24 heures, donc on va se raccrocher à ça. La bonne nouvelle du jour, si vous me passez l'expression, c'est qu'on va passer l'hiver, parce que ça y est, la fameuse loi spéciale du gouvernement est passée ce matin en Conseil des ministres. Elle ne comporte que 3 articles. Alors écoutez Laurent Saint-Martin, ministre démissionnaire du budget, qui s'est un peu agacé à l'Assemblée, parce qu'apparemment les députés ont passé plus d'une heure à lui demander si on pouvait ajouter ça, ça, ça et ça dedans. Et à chaque fois, il disait non. Écoutez Laurent Saint-Martin. Non, c'est bien.
À nouveau, je reprécise le cadre, parce que c'est quand même pas quelque chose qui est fait tous les ans. La loi spéciale, d'accord, ne permet pas de disposition fiscale. Donc toute la fiscalité du PLF, vous l'oubliez tant qu'il n'y a pas de PLF. Okay. Donc PTZ, pas de PTZ. Voilà. Les décrets et services votés sont des crédits budgétaires qui doivent assurer le strict minimum. C'est comme ça que l'article 45 de la LOLF le présente. Donc les crédits dits discrétionnaires, qu'ils soient d'investissement ou d'intervention, ne sont pas prévus dans ce cadre-là. Donc y compris pour les entreprises, les collectivités, on a parlé de la DSIL, de la DETR, etc., et y compris pour les associations. Donc il y a des conséquences.
Voilà, il rabaisse son micro derrière, il y a des conséquences. Il a raison, hein. Certains disent, bah voyez, la vie politique, la vie publique n'est pas bloquée, mine de rien, c'est quand même pas la panacée, cette loi spéciale à l'arrivée, Julien, quand même, hein, mine de rien.
Ah, c'est pas la panacée, si on peut se permettre.
Ça pose pas mal de questions.
Petite expression, c'est que le gouvernement est en PLS, il est en projet de loi spéciale. Voilà, j'ai pensé à ça, voyez-vous, hein. Il est en position latérale de sécurité. Ça veut pas dire qu'il est inanimé et qu'il est en très grand danger, mais ça veut quand même dire qu'il va pas très bien, donc il faut avoir ça à l'esprit. Deuxième chose, en effet, elle est d'une simplicité biblique. En trois articles, vous avez l'autorisation de percevoir les impôts existants, deuxième article, l'autorisation pour l'Agence France Trésor d'émettre de la dette, et puis un troisième article pour incorporer un peu de préoccupation de financement de sécurité sociale et pas seulement de finances de l'État, la capacité donnée à quatre grands organismes de sécu de pouvoir eux aussi émettre de la dette. Moi, je pense qu'elle a une vertu didactique, cette PLS et toute cette discussion contemporaine. Entre autres choses sur l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, c'est qu'il y a des gens qui vont s'apercevoir que leurs impôts augmentent. Ça, on l'a bien entendu. Hein. Mais si leurs impôts augmentent, c'est pas parce que ceci aura été décidé, c'est simplement que leurs revenus ont augmenté. Donc, voyez-vous, il y a une partie de la population qui va devenir imposable, qui...
380 000 avoir... foyers, je crois que c'est
oui,
ça qui
c'est ça.
Circule.
Et puis, 17 millions d'autres vont voir leur impôt augmenté. Donc, je trouve que c'est une vertu didactique. Vertu didactique, je ne veux pas que ce soit une menace contre ces populations plutôt modestes, d'ailleurs, qui d'un seul coup basculent sur un autre registre, mais qui voient ce que sont les conséquences de décisions politiques majeures, la décision politique majeure ayant été eh bien, la censure.
Et puis des questions à terme sur le financement de la sécurité sociale aussi, Emmanuel. Enfin voilà, ça fait quand même poser quelques questions, tout ça, cette incertitude autour
de... Disons que c'est un budget tout à fait... C'est même pas un budget, d'ailleurs, c'est une mesure temporaire qui permet finalement d'expédier les affaires courantes.
Alors derrière le temporaire, certains disent quelques semaines, d'autres quelques mois.
En fait, le véritable enjeu, il est là. C'est-à-dire que le scénario qu'on nous a vendu, souvent d'ailleurs du côté de l'extrême gauche ou du Rassemblement National, c'était de dire, bon, finalement, tout ça n'est pas très grave, les impôts vont augmenter, oui, mais on voit bien que dans quelques semaines, on aura un projet de loi de finances 2025 et que tout ça peut être rétroactif, etc. Oui. Mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est si sûr que ça qu'on aura un projet de budget 2025 dans les semaines qui viennent. C'est là toute la réalité.
En gros, pour adapter le barème de l'impôt sur le revenu, je lisais le jour une avocate qui disait pour que le fisc puisse s'adapter, allez, on peut aller comme ça jusqu'à la fin du premier trimestre, grosso modo.
Oui, et puis voilà. Mais même ça va au-delà. C'est-à-dire que même après, évidemment, dès l'instant où individuellement, maintenant, on peut ajuster son taux d'imposition, on peut très bien se dire qu'on en met un peu moins sur le début de l'année, puis qu'on compensera à la fin de l'année.
Vous remboursez un trop perçu sur l'impôt hier ou l'an prochain.
Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on nous dit c'est juste une loi qui permet de faire fonctionner l'État temporairement quelques semaines jusqu'au projet de budget 2025. Encore une fois, s'il n'y a pas de majorité, si le prochain budget est retoqué, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est là le véritable enjeu. C'est là le véritable enjeu. Et moi, j'avoue que je n'ai pas une confiance très grande dans la capacité de cette assemblée à voter un budget. Parce que effectivement, on pourrait se dire, la plupart des mesures là dont on regrette la non-application, c'est-à-dire que toutes les mesures qui étaient destinées aux agriculteurs, une bonne partie étaient dans le projet de budget. Une bonne partie des mesures pour l'immobilier, etc. Ça, on pourra toujours
Les tickets resto.
Parce qu'en fait, c'est ça qui est fascinant. C'est quand même ça que les Français ont aussi beaucoup de mal à comprendre. Il y a beaucoup de mesures qui finalement étaient jugées assez consensuelles, qu'on va sans doute retrouver tout ce qui concerne le PTZ, etc. Qu'on va sans doute retrouver dans le nouveau projet de budget 2025. Et les Français pourront légitimement se dire, pourquoi il n'était pas si mal finalement ce projet de budget. Pourquoi on l'a pas voté? Et donc, moi, la principale inquiétude, c'est est-ce qu'on est si sûr que ça, que dans les prochaines semaines, on aura vraiment un budget 2025. Et oui, moi, je ne vois pas pour quelle raison on arriverait à en avoir un, vu que l'équilibre politique ne change a priori pas beaucoup et qu'on voit pas grand-chose en train de se dessiner. Et c'est ça le véritable sujet.
Mais quand on dit que les politiques ne touchent à rien, on s'en portera pas plus mal, finalement, non, pas tant que ça. Parce
ah là, non. Politique, quoi, les Français vont découvrir des choses assez impressionnantes sur choses positives, peut-être, mais ils vont s'apercevoir que ceci va leur coûter cher, individuellement et collectivement, parce qu'on n'a pas encore réévoqué la question des retraites, le domaine de la loi de financement de la sécurité sociale cette fois-ci, mais alors que le gouvernement envisageait des économies à hauteur de quelques milliards, 4 je crois, non 2, voilà.
Voilà. 4 c'était vraiment le projet de départ.
La balle au centre.
Après, finalement,
de toutes les manières, il y a plein, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une indexation automatique et donc il va y avoir un coût de plusieurs milliards.
3 milliards supplémentaires.
Et qui va venir augmenter la dette sociale. Enfin, tout de même, la situation PLS est inquiétante parce qu'elle continue à nous rapprocher de, prenons un terme qui fasse un peu peur quand même pour mettre de l'ambiance, de la catastrophe financière.
La vraie catastrophe financière. Il y a vraiment une loi qui fait peur. Enfin, il y a une ligne rouge, c'est la réforme des retraites.
C'est la réforme des retraites, évidemment. Mais vous savez que si vous voulez embarquer dans le bazar ambiant la gauche, de toute façon, ils vont demander à gauche, le PS va demander, alors pas l'abrogation, mais le gel. Le gel de la réforme des retraites.
Moi, je ne sais pas, mais Olivier Faure, sur BFM TV, l'autre soir, puisque j'ai contribué à l'interviewer, dit qu'il veut revenir sur la réforme des retraites et qu'il ne veut pas de l'âge de départ à la retraite à 64 ans.
C'est-à-dire que les socialistes ne parlent pas tous de la même voix, parce que certains socialistes disent qu'on va demander le gel de la réforme des retraites, mais pas l'abrogation.
Ça, c'est de la sémantique géniale.
Non, mais c'est alors,
la différence entre abrogation et gel. Le gel, la question, c'est combien de temps dure le gel.
Le temps de remettre les partenaires sociaux dans la boucle et tutti quanti, voilà. C'est une question de sémantique.
Oui, mais ça, je pense que c'est vraiment la catastrophe ultime. Et qui est possible, encore une fois, si le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire votent de concert. Et ça, c'est tout à fait possible. Et ça, il faut bien voir que ce sera la véritable ligne rouge. Parce qu'il ne faut pas rêver. Les investisseurs internationaux, ils n'ont pas les yeux rivés en permanence sur la France. Comme je dis toujours, la France, c'est 5% du PIB mondial. Pour les investisseurs internationaux, c'est 5% de leurs investissements. Donc, c'est 5% de leur temps d'analyse et 5% de leur temps de cerveau disponible. Et qu'est-ce qu'ils retiennent de la France depuis qu'Emmanuel Macron est président? La principale réforme qu'ils ont en tête, c'est la réforme des retraites.
C'est vrai.
Parce que politiquement, on en a beaucoup parlé et parce que c'est le plus gros enjeu financier. Oui. Si jamais on en venait à remettre en cause cette réforme, là, pour le coup, ce serait vraiment un coup dur.
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour éviter la censure et incorporer, embarquer les socialistes pour éviter la censure, évidemment?
Abrogation, gel, donc il faudrait attendre le dégel du dossier. Il y a une technique pour essayer de passer la patate chaude à quelqu'un. Pour le dégel, une patate chaude, c'est compliqué. C'est de revenir au paritarisme. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est de passer le dossier de la gestion des retraites, non plus de la sphère de l'État, à celui des partenaires sociaux. Mais ça peut se comprendre, d'ailleurs, parce que du côté des retraites complémentaires privées, c'est plutôt mieux géré que du côté de l'État.
Bon. Longue vie à la loi spéciale, parce qu'on ne sait pas où tout ça va nous embarquer sur l'année 2025. Elle est 18h54, vue sur le web, comme tous les soirs, en éclairage sur un article de bfmbusiness.com. C'est Julien Marion qui passe nous voir ce soir. Bonsoir, mon cher Julien, soyez le bienvenu. On va parler de cette annonce dont on n'a pas beaucoup parlé hier soir, qui concerne le Stade de France. Vous avez vu que Gilles Evans, spécialiste de l'événement, est bien parti pour rafler la concession du Stade de France. Au nez et à la barbe, Julien, de l'actuel consortium Bouygues Vinci, qui est là depuis 30 ans, mine de rien.
Mais j'ai envie de dire patatras pour les opérateurs historiques qui, vous l'avez dit, sont là depuis 1995, donc depuis le tout début, en fait. Ouais. Mais donc, c'est bien avec Gilles Evans que l'État entre en négociation exclusive. Donc, ça ne veut pas dire que le contrat est signé. Ça, d'ailleurs, Gilles Evans l'a très bien dit dans leur communiqué hier soir, où il confirmait des informations qui ont d'ailleurs été rapportées par nos camarades de RMC. C'est pas tout à fait fini. La négociation a lieu et elle devrait durer d'ici la fin janvier.
Ouais. Mais votre article, l'article que vous avez écrit sur bfmbusiness.com, parle surtout des conséquences pour Gilles Evans, pour ses revenus, pour son image. Ça qui est intéressant.
Quand même. Oui, parce que quand vous entrez en négociation exclusive, généralement, c'est quand même bien parti. Alors pour cela, comment on s'est basé en fait sur une note d'un bureau d'études qui s'appelle TP ICAP Midcap, un courtier. Puisque en fait, Gilles Evans, c'est coté en bourse. Ouais. C'est une moyenne capitalisation à la Bourse de Paris. Alors, selon TP ICAP Midcap, l'exploitation du Stade de France, ça devrait rapporter chaque année entre 70 millions et 80 millions d'euros de revenus pour Gilles Evans. Alors, ça a l'air un peu gros comme ça, mais G11, c'est déjà une grosse entreprise. 70 à 80 millions d'euros, ça représente 5% de revenus en plus pour G11 sur la base de 2023. Et alors, certes, il y a cet aspect purement pécunier, j'ai envie de dire, mais il y a l'aspect en termes d'image. Parce que le Stade de France, c'est évidemment un actif prestigieux, c'est un site emblématique, et donc forcément, ça contribue à votre notoriété et votre rayonnement international. Et c'est pas rien, parce que G11, c'est un groupe certes lyonnais, mais c'est 45% du chiffre d'affaires qui est réalisé hors de France.
Puis c'est pas un amateur dans la gestion d'événements sportifs, surtout G11, ça, faut le rappeler, je veux dire.
Ah non, c'est un professionnel, pardonnez l'expression.
C'est les Jeux Olympiques.
J'allais y venir, les mots de la bouche, Emmanuel.
Non, mais je vous en prie. Pardon, je veux dire.
G11, vous l'avez, c'était incontournable cet été. G11, c'est simple, c'est 70% des tribunes temporaires que vous avez vues lors des Jeux Olympiques. Donc ça fait 160 000 places, c'est de Stade de France, ils le disent eux-mêmes. Ils ont aussi aménagé le château de Versailles, vous avez eu les fabuleuses épreuves d'équitation. Juste un mot financier. Les Jeux Olympiques, sur le troisième trimestre de G11, ça a ramené 100 millions d'euros de volume d'affaires en plus. Donc c'était pas rien. Et puis en dehors des JO, ils ont l'habitude d'exploiter des enceintes sportives. C'était le cas du stade Gerland à Lyon. Ouais. Ils étaient d'ailleurs aussi là pour la Coupe du Monde de rugby en 2023. Et je parle de rugby, mais en fait ils ont des connexions importantes avec le rugby parce qu'ils sont actionnaires du Lyon Olympique Rugby. Donc
le loup.
Exactement. Voilà.
Le loup, oui.
C'est le club. Et ça peut-être joué un petit peu dans les négociations actuelles parce que le cahier des charges du Stade de France, il faut que l'équipe de France de football puisse venir au Stade de France, mais aussi l'équipe de France de rugby.
Ah, ça, c'est un
donc,
vrai sujet.
Donc, c'est un petit. Politiquement, ça peut jouer, vous voyez.
Il y a toujours un sujet sur le fait de savoir si l'équipe de France de rugby va pouvoir son propre stade ou pas.
C'est extrêmement passionnant, parce qu'il va falloir voir comment ils réussissent à revitaliser ce stade qui est quand même un nid à emmerde. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même une structure, on a beau dire, qui a beau être prestigieuse, mais qui est extrêmement qui est vieillissante par rapport aux autres stades.
Il a 30 ans,
C'est un stade où il n'y a pas de club résident, etc.
Ça, c'est le sujet.
Moi, ce que j'attends, c'est de voir comment, finalement, ils vont réussir à multiplier les événements, comment ils vont réussir à rentabiliser l'affaire. C'est un sacré défi, mais je pense que...
Tant que vous n'aurez pas de club résident, de toute façon, c'est le problème depuis quasiment 30 ans. Il n'y a pas de club.
Oui, mais en même temps, ils savent tellement bien organiser des événements. Donc voilà, comment ils vont compenser? Qu'est-ce qu'ils vont organiser? À quoi? Moi, j'avoue que je suis assez excité à l'idée de voir ce que ça va donner.
Ça ne sera pas le PSG a priori. Il sera peut-être le PFC à terme ou un autre club qui pourrait monter un club.
Si le PFC va en Ligue des Champions, ils vont difficilement pouvoir rester à Charletti. Hein.
Oui, effectivement.
Mais bon, on n'en est pas là.
On n'en est pas là, effectivement. Mais ça sera intéressant, Tim. Voilà pour l'article de BFMBusiness.com. Voilà pour le Stade de France, qui est quand même moins fort en termes d'ambiance que le Parc des Princes, on est d'accord, Emmanuel, là-dessus. Quoi.
Absolument d'accord.
Il n'y a rien à voir.
Oh, ça se discute.
Bah non,
ça se discute.
Pas du tout. C'est l'inconvénient des stades ouverts à tous les vents, comme le Stade de France.
Ouais.
Alors que le Parc des Princes, c'est une caisse de résonance extraordinaire.
Ce sont des habitudes qui vous...
Une artiste qui ferait comme Céline Dion à Las Vegas, un concert tous les soirs. Une Taylor Swift pour le Stade de France. Ouais, c'est une option.
Qui remplirait le Stade de France tous les soirs.
Voilà pour ce débat sans fin. Merci messieurs d'être venus ce soir. Merci Julien Merci Marion, à très vite. Emmanuel Le Chypre, à très vite. Julien va revenir pour sa pénitence dans un quart d'heure après le journal qui arrive dans deux petites minutes. On est là jusqu'à 20h sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, la deuxième heure de Good Evening Business dans l'actualité ce soir. La loi spéciale du gouvernement qui a donc été présentée ce matin au Conseil des ministres, qui va passer au Parlement la semaine prochaine, ça devrait nous permettre de débuter l'année budgétairement parlant sans trop d'encombre. Mais après, ça reste le flou, on va en parler dans un instant dans le journal. Et puis avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure, avec eux on parlera également de Donald Trump qui continue de dérouler le tapis rouge aux industriels, aux investisseurs. Vous investissez $1 milliard sur le sol américain, vous êtes prioritaire sur tout ce qui est obtention de permis et d'autorisation. Ça c'est du business. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Votre rendez-vous avec le CELO 2025. Le seul salon transport et logistique sans stand, sans exposants, sans visiteurs.
Votre rendez-vous avec mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr.
Good Evening Business, le journal.
Donc c'est la bonne nouvelle du jour. Comme on dit, a priori, on passera l'hiver parce que la fameuse loi spéciale du gouvernement censée éviter la paralysie budgétaire a été présentée ce matin en Conseil des ministres. Il y a quand même une mauvaise nouvelle dans l'histoire pour des millions de contribuables à la clé. Écoutez Laurent Saint-Martin, le ministre démissionnaire du budget ce matin après le Conseil.
C'est un projet de loi qui autorise d'abord temporairement le gouvernement à continuer à percevoir les impôts et les taxes existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année, qui ne permet donc pas de reconduire les mesures fiscales qui arrivent à échéance à fin 2024 et qui ne permet pas d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu, notamment sur l'inflation. Il faudra attendre une nouvelle loi de finances, la loi de finances pour 2025, pour permettre d'indexer cela. Et donc, si votre question est de savoir s'il y aura bien 380 000 nouveaux foyers imposables avec la loi spéciale et une augmentation des impôts estimée pour un peu plus de 17 millions d'entre eux, la réponse est oui, avec la loi spéciale telle qu'elle est présentée aujourd'hui.
Voilà, on a une loi spéciale, ça l'empêchera bien sûr le prochain gouvernement d'avoir à configurer et voter un nouveau budget. Après avoir été nommé, Emmanuel Macron lui est censé nommer un Premier ministre, ça sera demain puisque l'Élysée vient de faire savoir qu'il n'y aurait pas de nomination ce soir. Mais la grande question, c'est de savoir quelle coalition en parallèle. Ce matin, au Conseil des ministres, Emmanuel Macron a estimé qu'à ce stade, le socle qui avait soutenu le gouvernement de Michel Barnier n'avait pas pu, je cite, être élargi. On reparlera de tout ça, bien sûr, avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. En attendant, 19h05, on a une grève qui débute là, ce soir, à la SNCF. Grève contre l'éclatement en deux entités de l'activité fret, qui va avoir de premières conséquences concrètes, puisque dans quelques jours, de premiers salariés vont tout simplement changer de structure. Une petite révolution en soi. Léa Rougeau.
L'avenir des cheminots se dessine pour les lignes régionales. Dès ce dimanche, les salariés travaillant pour les premières lignes ouvertes à la concurrence seront transférés vers de nouvelles filiales, avec une organisation du travail inchangée pendant 24 mois. Après trois appels d'offres remportés par la SNCF, 1200 cheminots seront donc affectés dans trois sociétés différentes. Les premières régions concernées sont les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et la région PACA, qui verront des lots basculer vers des filiales privées de la SNCF Voyageurs. A contrario, si l'appel d'offres n'a pas été remporté par la SNCF, les cheminots pourront choisir d'être transférés ou non chez la concurrence. Le cas se présentera dès juin 2025 avec Transdev qui exploitera le réseau Marseille-Nice en région PACA et remplacera la SNCF.
Léa Rougeau, en Allemagne, ça y est, la campagne électorale a lancé. Le chancelier Scholz a déposé aujourd'hui une demande de vote de confiance au Parlement pour lundi prochain. Il a toutes les chances d'être rejeté, ce vote, ce qui conduirait donc, comme tout le monde s'y attend finalement, à des élections législatives anticipées cet hiver. Donald Trump, qui continue donc de draguer les investisseurs et les industriels du monde entier, il a annoncé que toute personne qui investirait au moins 1 milliard de dollars sur le sol américain bénéficierait de procédures administratives accélérées, que ce soit pour les permis et les autorisations. On en reparlera avec nos experts tout à l'heure à 19h30. Et puis on va rester aux États-Unis. On vous avait parlé la semaine dernière de l'assassinat en pleine rue à New York du patron du premier assureur santé américain. Eh bien, depuis ces événements, les patrons, même des petites entreprises du secteur, se claquemurent littéralement. Bonsoir Benoît Ballet, vous êtes à Washington. Ils ont peur, ces patrons, parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont réjouis, en fait, de ce qui s'est passé, Benoît.
Oui, d'après le Wall Street Journal, les dirigeants de petites compagnies d'assurance américaines qui ne s'étaient jusqu'ici jamais inquiétés de leur sécurité disposent désormais d'un service de protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un autre exemple, Centaine, un autre assureur santé américain, a déclaré jeudi dernier qu'il ne tiendrait pas sa réunion d'investisseurs en personne prévue demain à New York et qu'il proposerait plutôt un programme virtuel. Suite au meurtre du PDG de United Healthcare, de nombreux internautes américains ont en fait publié des messages au vitriol sur les réseaux sociaux. La publication suivante: aujourd'hui, je pense à la fois où United Healthcare a soudainement décidé d'arrêter de payer ma chimiothérapie sans prendre la peine de me le dire, a par exemple été vu près de 2 millions de fois sur le réseau social X. Dans une vidéo envoyée à ses salariés, le patron de United Health Group, parent de United Healthcare, a dénoncé des messages qui ne reflètent pas la réalité et assuré veiller à ce que les soins soient sûrs, appropriés et dispensés au moment où les gens en ont besoin. D'après une enquête menée en 2023 par un organisme indépendant auprès de 3600 Américains assurés, 81% d'entre eux avaient une opinion positive de leur assurance santé, mais 58% avaient rencontré un problème à ce sujet au cours de l'année écoulée.
Merci beaucoup Benoît Ballet, donc à Washington pour BFM Business. Et puis dans l'actualité entreprise, toujours aux États-Unis, il faut croire que cette activité prometteuse est maudite, celle des robots taxis. General Motors a annoncé tout à l'heure qu'il arrêtait de développer sa filiale Cruise, après y avoir consacré, mine de rien, la bagatelle de plusieurs milliards de dollars. 19h09, c'était attendu, c'est officiel, la Coupe du Monde de foot 2034 se déroulera sans surprise en Arabie Saoudite. Elle était, à vrai dire, la seule candidate. Justine Vassogne.
I want you all to know that we...
Je peux vous le dire à tous, nous sommes prêts. Nous allons saisir cette opportunité avec passion et enthousiasme et nous allons tous vous rendre fiers.
Des enfants de 13 ans pour présenter sa Coupe du Monde. Consciente des enjeux et des critiques, l'Arabie Saoudite a voulu soigner son image lors du congrès de la FIFA et mettre en valeur son slogan « Grandir ensemble ». Le pays a un objectif, organiser la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Pour cela, le Royaume aurait investi plusieurs centaines de milliards de dollars. Depuis 2018, nous avons organisé plus de 100 événements de classe mondiale, explique le pays dans sa vidéo de candidature. Autre argument déployé, 60% des pays du monde sont à moins de 8 heures d'avion de l'Arabie Saoudite. En quelques années, le Royaume a tissé sa toile dans le monde du football. Il y compte aujourd'hui près de 200 sponsors directs. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo jouent dans le championnat national. De quoi séduire sans trop de difficultés la FIFA et son président Gianni Infantino. La signature en avril dernier d'un deal entre l'instance et Saudi Aramco de 400 millions de dollars sur 4 ans auront achevé de les convaincre. En 2034, la Coupe du Monde se déroulera dans 5 villes hôtes, Neom, Kobar, Riyad, Jeddah et Abba. Il faudra, pour accueillir les supporters de 48 pays, construire en 10 ans 230 000 chambres d'hôtes.
Voilà, Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite. Coupe du Monde 2030, hein, confirmation organisée par le trio Espagne, Portugal, Maroc, plus 3 matchs en Amérique du Sud pour fêter le centenaire du premier mondial qui avait donc lieu, faites vos comptes, en Uruguay. C'était en 1930. 19h11, on va sur les marchés. Étienne Braque avec nous ce soir. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Une petite hausse ce soir à la Bourse de Paris.
En effet, qui a permis au CAC 40 de retrouver les 7400 points à la clôture. 7422 points, c'est en effet du vert. Plus 0,4% ce soir à la clôture. Après, souvenez-vous, une baisse de quasiment 1% hier. Pas beaucoup de volume, hein, toujours pas de grande conviction. On verra ce que va nous dire demain la BCE, qui devrait annoncer une nouvelle baisse de taux. Tout se joue une nouvelle fois aux États-Unis avec le Nasdaq qui a touché un record pour la première fois. Figurez-vous qu'il a touché les 20 000 points grâce à de très belles variations. Aujourd'hui sur Apple qui est sur un plus haut historique, Broadcom également qui a gagné plus de 3% à l'ouverture, puisque vous avez des informations de presse qui évoquent que Broadcom est en train de développer une buse dédiée à l'intelligence artificielle pour Apple. Et puis dans le même temps, vous avez également Alphabet qui était en hausse de plus de 3% à l'ouverture, avec notamment eh bien, une nouvelle version de Gemini, vous savez, son système avec l'intelligence artificielle, une version 2.0. Donc forcément les GAFAM qui sont en forte hausse, voire même sur certaines valeurs sur des plus hauts historiques. Tout cela porte l'indice Nasdaq et l'ensemble des indices aux États-Unis.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Effectivement, à la mi-séance, le Dow Jones qui grappille 0,1%, 44 307 points. Le Nasdaq qui est repassé au-dessus des 20 000, il fait le yo-yo depuis tout à l'heure, plus 1,68%. 20 017 points, effectivement, nouveau record à la mi-séance. 19h12, nos experts reviennent dans un instant, beaucoup de choses. Jusqu'à 20h, la loi spéciale qui a donc été votée, on va commencer 2025, pourvu que ça ne dure pas trop longtemps quand même. On parlera salaire parce que les NAO ont commencé dans les entreprises. Et puis Donald Trump qui continue d'investir, d'attirer tous les investisseurs, les industriels. Vous investissez 1 milliard de dollars sur le sol américain, vous bénéficiez de délais raccourcis pour les permis et autorisations. Ça, c'est du business. On revient dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h17, ils sont là, les experts, comme tous les soirs jusqu'à 20h pour refaire l'actu économique. Comme tous les jours, Julien Damon est revenu. Rebonsoir, Julien.
Il est revenu tous les jours.
Professeur à Sciences Po, rebonsoir, Julien. Marc Landré est avec nous, bonsoir, Marc.
Bonsoir.
Associé chez Sia Partners. Frédéric Bocard est avec nous, bonsoir, Frédéric.
Bonsoir, messieurs.
Économiste,
sans
membre des économistes atterrés. On a une bonne nouvelle, on va passer l'hiver, mais messieurs, comment on dit Oui, la fameuse loi spéciale du gouvernement pour éviter la paralysie budgétaire a donc été présentée ce matin au Conseil des ministres. Alors, elle comporte que 3 articles. Écoutez Laurent Saint-Martin, qui a été auditionné après à l'Assemblée et qui a passé une heure et demie à expliquer à tous les députés que non, il n'y avait que 3 articles et qu'on ne pouvait pas rajouter ça, ça et ça. À chaque fois, c'était nous, en gros. Écoutez le ministre démissionnaire.
À nouveau, je reprécise le cadre, parce que c'est quand même pas quelque chose qui est fait tous les ans. La loi spéciale, d'accord, ne permet pas de disposition fiscale. Donc toute la fiscalité du PLF, vous l'oubliez tant qu'il n'y a pas de PLF. Okay. Donc PTZ, pas de PTZ. Voilà. les décrets et services votés sont des crédits budgétaires qui doivent assurer le strict minimum. C'est comme ça que l'article 45 de la LOLF le présente. Donc les crédits dits discrétionnaires, qu'ils soient d'investissement ou d'intervention, ne sont pas prévus dans ce cadre-là. Donc y compris pour les entreprises, les collectivités, on a parlé de la DSIL, de la DETR, etc., et y compris pour les associations. Donc il y a des conséquences.
Schlack, il balance son micro. Ça faisait une heure que les députés lui demandaient si on ne pouvait pas rajouter ça, ça, et il dit non. Voilà. Quand certains disent, vous voyez, on aura une loi de spéciale en début d'année, on va pouvoir commencer l'année sans difficulté. Non, ce n'est pas anodin. Il y a des conséquences, il a raison, Laurent Saint-Martin.
Une loi spéciale n'est pas une loi de finances.
Non.
Donc, évidemment, donc c'est pas transposable, donc c'est forcément différent. Ce n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire.
En 79.
79. Et pour vice de procédure.
Raymond Barre.
C'est le Conseil constitutionnel qui avait censuré la loi de finances pour vice de procédure. Et l'autre loi, donc la loi, parce qu'en vérité, c'est en attendant une nouvelle loi de finances. C'était arrivé le 18 janvier.
Ouais.
Donc du coup, là
ça me paraît un peu chaud hein, pour le 18 janvier.
Ouais, un peu chaud, mais parce que ceci dit, on sait que ça va pas durer 6 mois. Hein. Ça ne peut pas durer 6 mois.
On a entendu l'autre soir, on était en direct de l'Assemblée le jour du vote sanction.
Spécialiste du provisoire qui dure.
Vous aviez des députés qui vous disaient, mais la loi spéciale, ça peut nous couvrir quelques semaines. D'autres qui disaient, ça peut couvrir quelques mois.
En théorie, oui, mais Guillaume, en vérité, on est sur un problème politique. À partir du moment où il y a un accord politique, il y aura une loi de finances.
Oui.
Donc, c'est en vérité, le gouvernement Barnier, il est tombé sur une mesure, mais qui est une mesure prétexte. Ça n'aurait pas été la non-indexation des pensions sur les retraites, ça aurait été autre chose. Les politiques, les partis, en tout cas le RN et le Nouveau Front Populaire, ont voulu faire tomber le gouvernement Barnier sur le projet de loi de la sécurité sociale. Ils ont choisi le prétexte de la mesure sur les retraites. À partir du moment où il y a un accord politique, on en reparlera dans le deuxième thème, un accord politique, il y aura un budget. Donc on ne va pas attendre 6 mois s'il y a un accord politique a lieu.
Vous en savez rien
d'ici la fin du mois.
Qui nous dit qu'on ne va pas attendre 2 mois, 3 mois avant de former un gouvernement, d'avoir un budget, de pouvoir voter un budget. Voilà.
Personne n'a intérêt à le faire.
Personne.
À partir du moment où il y a un accord de non-censure, personne n'a intérêt à faire durer le suspense.
Bon, bien qu'on nous dise pour certains du côté du Nouveau Front Populaire, du côté du Rassemblement National, qu'on peut commencer l'agré, que finalement ça n'est pas une catastrophe. C'est le mot qu'on employait. Ça ne serait pas une catastrophe. On voit bien que tout ça n'est pas sans conséquence, Frédéric, quand même à l'arrivée.
Alors faut tenir.
Je pense à la sécurité sociale, notamment. Il y a des questions de financement qui vont se poser à un moment donné.
Faut tenir les deux bouts. C'est pas sans conséquence, mais c'est pas une catastrophe. Eh oui, les deux choses sont vraies. C'est pas sans. Mais le budget aussi n'aurait pas été sans conséquence. Parce que par exemple, donc. Oui.
Mais l'absence de budget.
On reconduit, donc pour redire, on reconduit les crédits de 2024
provisoirement.
Le temps qu'il faudra pour qu'il y ait une autre loi de finances. On sait pas quand. Moi, je donne pas ma main à couper sur la nomination du gouvernement tout de suite. Et je ne pas ma main à couper sur la solidité de l'accord, parce qu'en plus, non-censure si ça ne va pas trop loin. Donc on verra. Donc on reconduit. Les tranches n'ont pas pu être bougées. Alors on dit les gens vont payer plus. Non, pas forcément, parce que certains vont se trouver à payer l'impôt sur le revenu. Ils n'étaient pas imposables, mais ils ne vont pas payer la taxe sur l'électricité qui était prévue par le budget qui a été retoqué. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas être payées.
Certains
donc,
vont payer quand même plus d'impôts sur Laurent Saint-Martin, évidemment, politiquement parlant, a très bien joué.
Plus d'impôts sur le revenu, mais TVA et taxes, c'est beaucoup plus important que l'impôt sur le revenu. D'ailleurs, il faudrait faire attention à dire les gens ne payaient pas d'impôts, ils vont en payer. Tout le monde paye des impôts. Je dis à mon fils, quand tu vas acheter du beurre au petit commerce à côté de chez moi, tu payes des impôts. Enfin, voilà. Donc on paye beaucoup d'impôts. Donc il y a certains impôts qui vont être payés sur le revenu qui n'auraient pas été payés, mais il y a d'autres impôts qui ne vont pas s'appliquer parce qu'ils ont été rejetés dans le budget. La dernière chose, c'est que, la question qui est posée, c'est un peu de sortir de l'épure de dépenses, recettes, etc. En réalité, j'y reviendrai plusieurs fois aujourd'hui, mais il y a besoin d'avance. Il y a besoin de crédit d'avance parce qu'il y a un déficit de toute façon. Donc est-ce que les députés vont construire des véhicules qui permettent de faire des avances au-delà du budget, des véhicules de financement? Et c'est ça la question qui est posée. Comme on a fait après-guerre.
Sur la loi spéciale, on disait qu'il y a des problèmes, notamment pour le financement de la sécurité sociale, qui vont se poser à terme si on ne résout pas l'équation.
Oui, alors, tout à l'heure, j'ai trouvé la formule. Hein. France est en PLS, donc je la replace. Elle est en projet de loi spéciale. Donc les Français deviennent tous des spécialistes d'un coup de droit constitutionnel et de projet de loi spéciale. La situation est quand même globalement inédite. Alors, il y a cet épisode de 79 qui est lié à une censure du Conseil constitutionnel, mais une censure technique du Conseil constitutionnel. constitutionnelle, c'est bien moins grave qu'une censure politique Parlement. Donc, la situation, c'est vrai, il faut trouver le bon vocabulaire. Elle n'est pas forcément catastrophique, mais elle est quand même extrêmement préoccupante. Elle est extrêmement préoccupante pour les Français, elle est extrêmement préoccupante pour la capacité que vont avoir nos institutions à digérer dans les semaines et mois qui viennent les décisions à prendre pour changer un peu la direction du navire. Sinon, bon, quel est le sujet ? On devrait faire une loi de finances une année donnée et que ça dure un siècle. Enfin bon, il faut prendre des décisions pour aller dans un sens ou dans un autre. Donc la PLS, c'est quand même pas un bon signe. Voilà.
C'est du provisoire, on est d'accord. C'est censé être provisoire. Parce que derrière...
Le de sécurité.
Exactement.
Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors vous savez qu'en parallèle, on continue de discuter d'une possible coalition qui irait des LR jusqu'au PS, basée sur un pacte de non-agression, un accord de non-censure. Coalition qui aurait pour objectif déjà de voter un budget quand même au final. Écoutez ce que disait ce matin l'ancien ministre Éric Woerth. Il dit oui, il faut voter un budget, puis il faut que ça reste malgré tout un budget sérieux, hein, mine de rien. Écoutez.
On ne peut pas reculer sur l'idée que le budget doit être un budget de début de redressement des finances publiques. On doit aller plus vite, parce que vous connaissez les mauvaises surprises sur les recettes, etc. Donc on doit aller plus vite pour rattraper cet écart. Et puis on doit retrouver un chemin budgétaire qui nous amène à un peu plus de souveraineté financière. Et ça, c'est indispensable. Ça nécessite de prendre des mesures impopulaires. C'est très difficile de faire quand on n'a pas une majorité, et c'est ce qu'on a vu avec Michel Barnier.
Alors, c'est tout simplement impossible. C'est-à-dire, si vous voulez aller des LR et du PS, il faut donner des gages à tout le monde. Il faut que chacun avale des couleuvres.
C'était déjà impossible quand il y avait une majorité absolue. C'était plus compliqué quand il y avait une majorité relative, mais qui pouvait, par projet, donner une majorité absolue. Alors que maintenant, on n'a même pas de majorité relative. C'est impossible. Non, mais c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer un budget à minima, ça va être le minimum syndical. Si jamais il y a effectivement ce socle commun qui va du PS au LR, on écartera provisoirement, quand je dis provisoirement, le temps d'une nouvelle élection qui pourrait déterminer quels sont nouveaux rapports de force en France. Tant qu'on n'aura pas cette nouvelle élection, on va faire du minimum syndical en matière budgétaire et on ne va pas corriger là où on a des déficits, là où on a un excès de dette.
Il va falloir donner des gages aux uns aux autres. Vous avez les socialistes qui vont demander, alors pas forcément l'abrogation, mais le gel de la réforme
des retraites.
La suspension de la réforme des retraites.
Et c'est le même effet, hein. C'est pareil. Hein.
Bah, l'an prochain, c'est quoi 3 milliards d'euros
c'est 3,5.
Voilà, 3,5. Déjà.
3,5.
Vous avez la droite qui va dire.
Pour commencer.
En 2025.
Oui, en 2025. Pour commencer, vous avez la droite qui va demander quoi ? Bah, qu'on ne tape plus sur les entreprises. Donc là, vous essayez sur quelques milliards. Peut-être la droite, la façon Wauquiez, qui va revenir à la charge. Parce que c'est cette droite-là, c'est la droite de Wauquiez qui a demandé à ce qu'on ne désindexe pas totalement les pensions sur.
Tout le monde l'a demandé.
Tout le monde l'a demandé.
À part Renaissance.
Oui, c'est ça. Donc c'est un budget 2025 qui va laisser dériver encore plus les déficits. C'est ça le prix à payer si on veut avoir un budget à l'arrivée. C'est ça que ça veut dire, Frédéric. On est d'accord.
Mais je pense qu'il faut avoir en tête que.
Donc un budget encore plus bancal.
La question est politique. Moi, je suis d'accord avec Marc là-dessus. La question est politique. Mais en même temps, si on s'enferme dans un budget technique, on a des exemples. Hein, l'Italie, par exemple. Ils ont fait, avec Draghi, budget technique. Donc, en réalité, on commençait à serrer le kiki d'austérité, mais technique. Ça a préparé la voie à Meloni. C'est-à-dire, ça prépare une dépolitisation, en réalité. Gauche-droite, c'est la même chose. C'est pour ça que le Parti Socialiste hésite, et maintenant, il n'a pas. Et qu'il amène des éléments un peu politiques comme condition pour participer. Mais il n'y a pas à élargir un socle.
Mais tout le monde va vouloir laisser fuiter les déficits dans ce budget.
Donc en réalité, c'est politique. Moi, je redis, il faut avoir le débat. On a besoin de muscler le malade. C'est pas vrai ce que dit Woerth. C'est pas vrai. On a besoin de muscler le malade pour s'en sortir. Et on a la possibilité de creuser d'abord pour s'améliorer ensuite. Même, on l'a dit ici, je l'ai dit ici, en tout cas moi, même les institutions européennes, dans le nouveau pacte de stabilité, autorisent 5 à 7 ans à partir du moment où il y a des dépenses de développement.
Oui. Nous, ça fait 20 ans.
Non, dans le nouveau pacte de stabilité.
Oui.
Les Allemands, le président de la Bundesbank. On a besoin de se développer, de creuser. Pour améliorer, on a besoin d'embauche dans l'éducation nationale. Ah bon ? On a besoin de formation, tout de suite, beaucoup, pour se développer. Bien sûr.
Oui, on embauche.
Bien sûr. On a besoin. Oui. C'est évident.
Non, mais
les Allemands,
c'est ce que je veux dire.
Le président de la Bundesbank vient de dire il faut assouplir le frein à la dette. Chez eux, ils disent ça. Donc on a une opportunité européenne et
On ne traite pas cette question.
Lui le dit, je ne sais pas si le futur chancelier
le fera. On a un pôle public bancaire qui peut financer et on ne mobilise pas.
On est d'accord. Pour cette situation, on a l'impression que la priorité maintenant, c'est d'avoir un budget. Même s'il est encore plus bancal, il est encore plus mité que les précédents, ce n'est pas grave. L'urgence du moment, c'est d'avoir un budget. Même Emmanuel Macron a dit la semaine dernière à la télévision, la priorité du prochain gouvernement, ça sera le budget. Il n'a pas délivré de message comme précédemment sur le sérieux budgétaire qui devait être la caractéristique de ce budget. Voilà, point. Donc là, c'est un budget
qu'il Cour des comptes a accepté du 6% de déficit.
Ouais, mais... De toute façon, ils ne peuvent faire que l'accepter. Ils l'observent, après ils le critiquent. Premier mot, c'est sur ce nouveau vocable, depuis quelques jours, accord de non-censure. C'est génial, ça.
Oui.
Non-censure. Donc, au regard de ce qu'est la tripartition du Parlement, ça veut dire qu'on va chercher à échanger un peu de stabilité contre de l'impotence totale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de censure si on ne fait rien. Mmh. Voilà. En revanche, si on décide quoi que ce soit, ce sera censuré par l'un ou l'autre bout. Donc, je trouve qu'avec cette non-censure, on pourrait aussi parler d'un non-parlement. Non-parlement qui n'aurait pas de rôle à jouer. Et surtout, une espèce de côté, comment on pourrait dire, niais de ce qu'est la réalité parlementaire. Ils vont pas signer un accord de non-censure qui serait opposable devant un quelconque tribunal, même tribunal de l'opinion. Donc, au premier moment où ils seront pas contents, ils considéreront qu'on dépense trop ou pas assez, ils censureront. Enfin, d'autres.
Surtout qu'on a un intérêt politique pour l'un des partis à le faire. En vérité, on est passé d'un moment où c'était le RN qui était le pivot, qui décidait du là. Maintenant, ça va être le PS.
On va voir quelle partition sera jouée, c'est tout à fait exact. Sauf que je pense que nous sommes confrontés à des échéances budgétaires graves. Alors, quand je dis j'ai l'impression de le dire de façon très doctrinale, pompeuse, prétentieuse, je suis vraiment pas le seul.
Nous sommes surtout confrontés à des échéances présidentielles et électorales.
Ouais,
c'est pas deux ans d'une élection présidentielle que vous fermez les robinets, quoi.
Mais il faudra peut-être faire des innovations absolument incroyables, que peut-être y serons-nous contraints. Par exemple, si les Allemands se mettent à lever de la dette, qu'est-ce qui va se passer? La dette française sera moins plus coûteuse, elle sera moins intéressante pour les investisseurs. Donc vraiment, la situation est grave.
Une fois de plus, on n'arrive pas à tenir les déficits publics et à rétablir les finances publiques avec une majorité absolue qui est claire, issue des urnes. Comment peut-on prétendre avoir un résultat meilleur sans majorité? C'est impossible.
Si vous rouvrez les vannes budgétaires de tous les côtés, si vous donnez des gages, des trophées à tout le monde, là peut-être vous pouvez y arriver.
Mais non, c'est peut-être comme ça. Vous rétablissez pas l'équilibre des finances publiques.
Non, mais vous avez votre budget de voter. Et apparemment, c'est tout ce qui compte à l'heure actuelle. Voilà. Donc on est d'accord.
Non, on se demande aussi si tout le monde n'est pas calé sur le calendrier de juin-juillet, en fait.
Oui.
Tout le monde attend juin-juillet et se demande comment tenir d'ici juin-juillet.
Mais ce qui est impossible, en plus, parce qu'on ne peut pas, dissoudre avant juillet. Non. Sauf qu'on ne peut pas faire d'élection. On ne va pas faire une élection fin juillet. Donc en vérité, mécaniquement, ça reporte à septembre. Et c'est pour ça que le président a dit dans son allocation 10 mois.
Oui.
Donc en vérité, il ne peut pas y avoir
vous avez la discussion
avant 10 mois.
Après septembre, vous avez la discussion budgétaire. Vous ne pouvez pas faire une élection législative à ce moment-là. Quoi.
Ça n'a pas empêché Emmanuel Macron de ne pas nommer le gouvernement jusqu'à début septembre pour préparer un budget.
Ah oui.
Donc ça, c'est une fausse raison.
Il n'y a pas d'obligation.
Mais non, il n'y a jamais de
délai. On peut attendre 10 mois pour avoir un Premier ministre.
Et c'est pour ça que le provisoire qui s'installe, on a l'habitude.
Un provisoire coûteux. Voilà.
On peut espérer que la loi spéciale tiendra. Allez, 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h35, on est revenu avec Julien Damon, Marc Landré, Frédéric Bocara. On est ensemble jusqu'à 20h sans pub, je le précise, sur BFM Business. C'est un argument de vente comme un autre, finalement. De dire
il marche bien, il est bon.
Oui, il est bon. Il est bon. Donc, je vous le disais, pas de Premier ministre ce soir, en ce qui concerne la fameuse coalition qui irait DLR au PS. Bah, pour l'instant, ça aussi, on voit pas vraiment la lumière, et donc on va se contenter de cette loi spéciale pour débuter l'année, et puis après il faudra redémarrer, rediscuter peut-être avec les parlementaires, peut-être les partenaires sociaux aussi, Marc Landré, si ça se trouve, voilà.
Je trouve que c'est la nouvelle donne politique telle qu'elle se dessine. Si jamais ce socle commun, quel que soit son nom, englobe le PS, ça va mettre le PS au centre du jeu, et surtout ça va relégitimer les partenaires sociaux, puisque le meilleur moyen
retour d'avoir de Laurent Berger,
un consensus,
c'est ça,
un accord, ça va être d'écouter ce qu'ils disent. On l'a bien vu, on sait très bien que dans ce futur budget ou dans la future ligne politique, grosso modo, on va récupérer les deux années qui ont été faites sur l'emploi des seniors et sur l'assurance chômage par les partenaires sociaux. On peut tout à fait imaginer que demain c'est eux qui feront encore le là sur certaines dispositions, en se disant comme les partenaires sociaux sont d'accord, on va suivre comme ça, au moins on risque pas de se planter. Mais il risque d'y avoir une incidence, c'est que jusqu'à présent vous aviez la CFDT et la CGT qui se tenaient.
Oui.
Si demain effectivement les partenaires sociaux
reviennent au centre du jeu. Vous pouvez avoir une scission entre les deux, entre la CFDT qui va pousser pour les compromis et la CGT qui va continuer à prôner la lutte. Et donc cette espèce de regroupement ce syndical qu'on avait connu depuis 2 ans,
l'intersyndical, voilà, sur le front
risque
syndical,
d'imploser, oui, du fait de cette nouvelle donne politique.
Frédéric Bocara.
Oui, je trouve que ce que dit Marc Landré, c'est intéressant, effectivement. Donc je ne sais pas si le PS va rentrer dans ce socle élargi. À mon avis, ce serait très très dangereux pour lui. Mais en réalité, Sophie Binet, elle a déjà répondu hier sur France Inter. Elle a dit: conférence de financement des retraites, oui, il faut discuter du financement. Et moi, je pense qu'elle a raison, il faut discuter du financement, avant même discuter du reste. Mais elle a dit, attention, ne renvoyez pas en tête à tête entre partenaires sociaux, le gouvernement doit dire dans quel sens il faut qu'on aille. Elle l'a dit comme ça, sur France Inter. Parce qu'effectivement, elle se méfie.
C'est souvent comme ça que ça se passe.
Hein. Mais là, donc on peut pas attendre qu'il y ait pas une ligne qui soit donnée. Moi, je dirais autre chose plutôt. Je dirais qu'effectivement, les parlementaires, s'ils étaient intelligents, ils pourraient se saisir. Là, je parle des parlementaires, de ce que disent les partenaires sociaux ou organiser eux-mêmes des consultations pour porter des projets de loi, notamment sur financement. Il y a retraite, mais s'ils ont le souci, et je finis là-dessus, de l'unité syndicale, notamment avec le cœur qui est CFDT-CGT, la question des aides publiques aux entreprises, et des critères d'aides publiques aux entreprises, qui a fait le ferment de l'unité en réalité, et qui pourrait être sur la table, parce que vraiment, tout le pays s'interroge dessus.
C'est sur la table, le PS le met sur la table pour rentrer dans le socle commun.
Les critères des aides, bien sûr.
Julien Damon là-dessus.
Non, mais il y aura peut-être, quand on relira la période, le décennat macronien, un grand paradoxe de l'histoire. Ça a quand même débuté par une grande critique à l'égard des corps intermédiaires, un mépris à l'égard du paritarisme.
Ouais, ils ont été assez méprisés pendant 7 ans.
Par une voie assez détournée, finalement, les partenaires sociaux, et même le paritarisme, du côté de la retraite en particulier, pourraient sortir revigoré.
C'est assez étonnant. Le Conseil économique, social, mental.
Ah, donc vous étiez membre, mais c'est facile.
C'est pour ça que j'en parle.
Allez,
faut pas
aller trop loin.
Ils l'ont fait revenir à un moment, ils ont dit, c'est merveilleux.
Allez, longue vie à la vie.
Surtout si son président devient Premier ministre, mais il n'est plus en ligne.
Oui, c'est ça.
Longue vie à la loi spéciale qui va nous éviter bien des désagréments en début d'année. Donald Trump, on voulait dire un mot, Donald Trump qui continue de faire des promesses, vous savez, d'attirer des investisseurs, des industriels du monde entier. Il a posté un message, vous allez voir ça si vous nous regardez à la télévision, sur son propre réseau social Truth, pour dire, voilà, mesdames, messieurs, moi président, toute personne qui investira, c'est écrit en gros, hein, au moins $1 milliard sur le sol américain recevra des autorisations et permis accélérés. Traduisez ça par la soupe est bonne et va rester très bonne aux États-Unis, y compris, il dit ça, pour les approbations environnementales. Ça montre à quel point le sujet va être sensible pour lui dans les prochains mois. Voilà, drill, 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 voilà, pour rendre l'Amérique encore plus autonome. Et il a le sens du business, cet homme-là. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer un petit peu de ça chez nous,
c'est
en Europe, quand même? C'est incroyable.
C'est un dealmaker.
C'est incroyable.
C'est un homme qui fait des deals. Et c'est pour ça, comme je l'avais dit ici, que lorsque Christine Lagarde dit, plutôt que de lui faire la guerre, passons des deals avec lui économique, ouais, c'est pas totalement idiot.
Ce qui a choqué, hein, on l'a déjà dit ici, on avait parlé. Hein.
Mais c'est de la convergence. Vous savez, l'Amérique, et Trump en est le premier des représentants, je veux dire, c'est un pays pragmatique. Ils font pas d'idéologie, ils font du pragmatisme. Et ce pragmatisme, ça les conduit à faire du souverainisme, et donc à avoir une forme de souveraineté économique avant tout. Alors que nous, en Europe, on fait l'idéologie. Je vous donne un exemple. Pour bien comprendre la différence entre le pragmatisme américain et l'idéologie européenne. En Europe, qu'est-ce qu'on dit quand on veut développer une activité ou un secteur? On leur dit, très bien, on va vous faire des subventions et vous allez pouvoir contracter des prêts à taux préférentiels. Ce qui c'est quoi? Ça veut dire que c'est une dette dans les bilans, donc vous partez avec des choses à rembourser. Qu'est-ce qu'ils font aux Américains? Ils disent non, pas de prêts, pas de subventions, on vous prend des contrats. C'est-à-dire que l'armée, c'est-à-dire que le pouvoir fédéral donne des contrats. Ça vous donne du chiffre d'affaires dans les bilans.
Ouais.
La différence, elle est fondamentale. Et Trump, en disant, venez investir chez nous, au-delà d'un milliard, on vous facilitera la vie, c'est exactement ce qu'il fait.
Alors, comment dire,
est-ce qu'on tire des enseignements de tout ça chez nous en Europe?
Le premier enseignement, voilà, c'est pas le pragmatisme, c'est le bras de fer en réalité. Il y a un bras de fer États-Unis-Europe.
Là, n'empêche pas l'autre. Hein.
Oui, mais quand même, il y a un bras de fer. Donc comment on joue dans ce bras de fer? C'est un peu... Lagarde, elle
essaie... Sauf que le bras de fer, il est avec la Chine, il n'est plus avec l'Europe, parce que Trump considère que l'Europe est morte.
Non, pour l'Europe, voilà, il est avec les États-Unis. Quand même. Si. Pour l'Europe. Mais pas pour les États-Unis.
Oui. Ah, l'attraction des investissements allemands aux États-Unis.
Ça va faire tout seul.
Non, ça continue. Parce qu'il y a beaucoup de choses en Europe.
Faut la preuve, Trump veut en finir avec l'excédent commercial de l'Europe vis-à-vis des États-Unis.
Ah oui. Voilà. Sur quoi on fait porter le bras de fer? Bien sûr, on peut baisser les coûts. On peut donc faire une surenchère à la baisse des coûts. Mais quel coût? On peut mettre des critères écologiques et sociaux à la baisse des coûts. Le problème, c'est, en face de ce qu'il dit, lui dit, nous, on ne met pas de préalable. Donc, il y a une histoire de temporalité. Donc, on pourrait très bien avoir des baisses des coûts immédiates sous conditions écologiques et sociales, mais suivies des conditions. Et donc, en quelque sorte, le contrôle se fait après, a posteriori, avec un suivi, et où on peut renforcer l'aide, au contraire, fiscale ou financière. Moi, je pense qu'il faut rentrer dans des logiques comme ça, parce qu'on a la culture européenne où l'écologie et le social, on ne peut pas vraiment transiger dessus, mais on a une folie de réglementation. Je suis d'accord là-dessus. Ouais. Et donc, on peut très bien dire, on fait tout de suite, on aspire, on attire, mais on va suivre progressivement et on peut renforcer l'aide.
Mais on ne sait pas faire.
Et faudrait peut-être rentrer là-dedans.
Julien Damon.
Moi, je vais faire trois remarques sur ce tweet, mais qui n'est pas un tweet parce que c'est sur son réseau
social.
Social à lui.
Le tweet n'existe plus, c'est X maintenant.
Oui, on me dit pas on fait un X, sauf ça.
C'est un message
du film un peu olé olé. On dit encore on fait un tweet.
On fait un X.
Si on fait un X, je pense que non, on peut pas. En tout cas, il a fait un truth social, notre ami Trump, et je suis allé regarder, il le conclut par cette formule: préparez-vous à faire du rock aussi.
Ouais.
Fin du truc, c'est préparez-vous à faire du rock. Ouais, un sacré personnage. Deuxième remarque plus sérieuse, c'est qu'il se remet à faire de l'action publique par réseau social, on va pas dire par tweet. Il avait déjà été observé comme ça lors de ses premières 4 années de pouvoir, et c'est reparti. Nous, on est là en train de se bagarrer, là, projet de loi sociale, est-ce que le PLFSS est contenu dans le projet de loi sociale, des trucs hyper bureaucratiques, nécessaires par rapport à ce qu'est la France. Lui, non, boum, il est même pas encore président, qu'il est déjà en train d'expliquer comment ça va se passer, et a priori, il y aura pas beaucoup de différence quand il sera véritablement en poste, et ce qui sera été instruit techniquement pour faire ce mesure. Et la troisième chose, qui est plus importante, c'est que moi, ça m'a fait penser quand même à cette technique là de citoyenneté par investissement. C'est-à-dire que vous avez des pays qui vendent leur passeport. Si vous mettez 3 millions d'euros sur la table, vous avez le passeport autrichien. Si vous mettez 750 000 euros sur la table, vous avez le passeport maltais, qui, je vous le précise, sont des passeports européens. C'était les îles des Caraïbes qui avaient commencé pour ça. Les États-Unis ne le font pas. Je trouve que ce qui est épatant dans ce qu'il dit là, en réalité, c'est ce qu'il prend comme quantum. C'est le milliard. Nous, on est des minables. C'est-à-dire qu'on fait des trucs, c'est à partir de quelques millions ou de quelques centaines de milliers d'euros. Bon. On devrait pouvoir, de la même façon, faire de grandes annonces en disant, si vous êtes dynamique et si vous venez chez nous, on va vous aider.
Le contraste est quand même saisissant entre Trump qui fait ses annonces absolument incroyables aujourd'hui, et puis l'Europe qui continue de se déchirer, qui n'avance pas, qui recule sur le plan industriel, qui se bouffe le nez sur le Mercosur, à l'image de ce qu'on a vu la semaine dernière. Enfin, c'est quand même assez incroyable, quoi. Voilà.
Il va y avoir du rock.
Vous savez, j'étais le week-end dernier à Royaumont pour les entretiens annuels, où il y a eu un formidable débat, notamment avec Eric Schmidt, qui est l'ancien président et fondateur de Google.
Ouais.
Il a dit, quand il parlait de régulation, il parlait des différences entre les États-Unis et la France, enfin l'Europe, etc. Et à un moment, il a dit « You're losing the game ». C'est-à-dire que pour lui, c'est sur l'IA comme sur beaucoup d'activités, c'est même pas la peine de jouer. On est en train de perdre. Et donc, il faut choisir son camp, il faut choisir sa technologie, il faut choisir son activité dans lesquelles on va pouvoir essayer de donner l'illusion d'être des concurrents des États-Unis. Voilà, donc je sais pas s'il a raison, mais j'ai plutôt tendance à croire ce type
de personnage. Mais c'est un peu le débat qu'on a notamment sur le bras de fer avec les Chinois sur le véhicule électrique. On dit on perd notre temps à essayer de concurrencer les Chinois, à courir après les Chinois sur le véhicule électrique, allant sur des technologies avancées finalement. Voilà.
Ouais, d'accord. Incitons-les à venir produire en France.
Oui.
C'est ce que propose Pouyanné.
C'est ce que
Pouyanné dit. Plutôt que de leur faire la guerre, incitez-les à venir produire les batteries électriques
Tavares chez Stellantis. Ouais. Voilà.
Bon, sur la bagnole, on fait peu de valeur ajoutée quand on produit en France.
Oui, mais c'est pour ça.
Tous les brevets, etc. On fait de l'assemblage.
Oui.
Et par contre, on est en train de louper le deuxième tournant, qui est l'hydrogène, à mon avis, sur les poids lourds, sur tous les transports terrestres un peu lourds. L'hydrogène, on est en train de louper le tournant. Non, je pense qu'effectivement, ça nous oblige, c'est ce qu'on est en train de faire mentalement, à voir où sont nos atouts, nos avantages comparatifs, entre guillemets. Hein Donc, effectivement, les services publics, c'est pour ça qu'il faut les muscler, éducation, recherche publique, etc. Dans les technologies, on a aussi des avantages considérables dans les puces, avec ASML qui est aux Pays-Bas, etc. Donc, on voit pas ça, on le montre pas assez. Parce qu'il y a une dimension de bluff autoréalisant qui est faite par les autres, bien sûr. Donc, il faut beaucoup mieux, effectivement, aussi se coordonner. Mais les États-Unis, ils jouent la division parce qu'ils vont tirer tel pays européen avec eux, tel autre pays européen avec eux. Donc il y a un vrai enjeu, bien entendu.
Et Trump a été très bien élu.
D'une certaine façon, ce que je voulais dire tout à l'heure, ce que Macron a fait quand il a tout de suite été élu. Il décide et puis il applique. On verra dans 2 ans.
Bien, Trump donc qui entrera en fonction dans un peu plus d'un mois. On a quelques minutes pour parler salaire, parce que les NAO ont commencé ou vont commencer dans les boîtes ces temps-ci. Et on a cette étude du cabinet People Base CBM qui se concentre lui sur les entreprises du CAC 40, mais qui nous dit plein de choses, qui nous dit qu'il y a encore des écarts assez conséquents, puisque le PDG en moyenne gagne 140 fois le salaire de ses employés. Bon, accessoirement, on nous dit aussi que les hausses de salaire devraient être moins fortes, évidemment, l'an prochain, aux alentours de 2,15%. Et apparemment, quand on regarde toutes les études, tout le monde est en train de voir à la baisse les évaluations de hausse de salaire pour l'an prochain. Bah, c'est logique dans un sens, l'inflation
baisse. Il n'y a pas de raison que les augmentations de salaire sous-représentent deux fois l'inflation. Et puis, une fois de plus, le CAC 40, c'est 40 boîtes.
Oui.
Alors qu'en France, il y a 3,5 millions d'entreprises.
Oui.
Donc, c'est.
Mais les études, je parle d'autres études au niveau large, PME.
On dit qu'il y a 140 fois l'écart entre le
CAC 40.
Ça, c'est au CAC 40. C'est pas représentatif de l'économie française.
C'est juste le constat au passage de
détails. J'ai regardé pour les entreprises côté, je crois que c'est de 1 à 70 pour l'ensemble d'entreprises cotées.
Et le salaire moyen d'un patron, c'est 4 500 €.
Oui, mais c'est les entreprises cotées. Toutes les entreprises, il y a les entreprises cotées, il y a le CAC 40. Oui, hein. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes, je trouve, moi, au regard, sans être membre du Parti communiste, je trouve que ces écarts présente plusieurs problèmes. L'un d'entre eux, auquel on ne pense pas souvent, c'est que ça peut démotiver en interne. Hein. Alors certains, en interne, peuvent se dire « chouette, je vais devenir le calife à la place du calife », mais ils ne sont pas très nombreux à vouloir être à la place du calife. Pour les autres, quand même, c'est ces rémunérations. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec tant de millions, enfin, sans vouloir faire du truc un peu niaisou encore.
On peut toujours.
Des sommes quand même absolument incroyables. Alors après, est-ce qu'il faut limiter, comme le propose Oxfam, les salaires, les différences de salaire de 1 à 20. Frédéric, j'en sais trop rien. Frédéric. Je sais juste que...
Comme dans le public.
Alors, ouais,
dans le public, c'est plafonné.
Il y a un plafond à 450 000, je crois. Donc c'est pas un truc. Mais c'était JP Morgan, le fondateur, qui lui disait que c'était de 1 à 20. Je crois que vous faites l'heure.
Exactement.
Pensait de 1 à 40.
Mais voyez.
1 à 140. Alors, est-ce qu'après, ce sera un 300? Enfin, j'en sais rien.
Frédéric.
Oui, d'abord quelques éléments factuels. En réalité, les calculs montrent que si on prend l'avant-Covid jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu rattrapage.
En salaire en général.
En salaire en général.
Je crois qu'on allait parler des pauvres patrons du CAC 40. Je disais qu'il y avait un truc.
Merci de souligner. Du point de vue des salaires, il n'y a pas eu rattrapage. Il ne faut pas avoir seulement la vitesse instantanée. Il n'y a pas eu rattrapage. Et donc, les gens ont encaissé quand même un recul de leur pouvoir d'achat.
Les actifs, pas les retraités. Mais oui, non, je précise.
Oui, mais bon, c'est quand même le corps social, hein. Encaisser un recul du pouvoir d'achat. Et avec ça, ça veut dire qu'il y a eu aussi des dépenses qui ont été reportées, donc il peut y avoir des effets. Il faut faire attention sur les effets sur la société, y compris sur la santé. Et je pense qu'il faut suivre de très près les évolutions de l'espérance de vie. La deuxième chose, c'est, en réalité, il y a 3 millions de petites entreprises et 30 à 40 000 société du CAC 40, parce que 40 groupes avec des dizaines de milliers de filiales. Mais avec, je sais plus, 180, j'ai pas regardé récemment les chiffres de l'INSEE, on fait près de la moitié de l'emploi. Avec 120, 180 grands groupes. Donc, effectivement, les ultra-riches, les grands patrons, c'est 0,001%, c'est 6 000 personnes peut-être. Donc effectivement, quand on fait la moyenne des patrons, l'essentiel des patrons, c'est l'artisan plombier.
Bah oui.
Qui lui, gagne même pas 4 500 €.
Bon.
Ensuite, j'ai regardé, pour d'autres raisons, l'évolution des salaires chez Renault. Enfin, les salariés, on a une bonne relation, donc on a regardé ensemble les choses. Et ce que j'ai vu surtout, c'est pas seulement ça. C'est sur 20 ans, parce qu'ils ont regardé les salaires sur 20 ans, l'emploi sur 20 ans, moins 25% d'emploi sur 20 ans. Le salaire par tête augmente légèrement quand même, parce qu'il y a... le GVT, quoi, la qualification augmente. On remplace des ouvriers par des techniciens, les techniciens par des ingés. Moins payés que les ingés d'avant, mais mieux payés que les techniciens. Bon. Mais en réalité, il y a une pression. On fait suer le burn-out énormément. La productivité du travail sur 20 ans chez Renault, si on enlève l'inflation, elle a augmenté de 40%. C'est énorme, 40%. Dans le même temps, la productivité du capital, elle a baissé de 30%. Donc il y a un vrai problème. On a besoin de dégager tout soit plus d'accumulation du capital.
Dans un secteur, vous êtes dans un secteur aussi qui est...
Oui, mais dans, voilà. dans des secteurs où on cherche à racheter sans cesse, Renault rachète, il y a différentes aventures, il y a l'aventure américaine, il y a l'aventure Avtovaz, il y a l'aventure Nissan, donc qui vont être très coûteuses et qui vont peser des années après contre les salaires. Enfin, alors qu'on pourrait avoir, je finis juste mon raisonnement, on pourrait avoir des accords... des accords simples, non capitalistiques, où il n'y a pas une dépense, où il y a des pénalités si l'accord est défait. Le problème, c'est que le droit de la concurrence européenne interdit ça. Donc il faut revoir ces questions de droit de la concurrence.
Des accords de non-censure des salaires.
Voilà. Non, des accords de coopération.
On met pas 10 balles.
Oui. Où on n'est pas obligé de mettre Marc capital André, de 2, 3, 4 milliards qui vont peser sur
Marc André.
Je trouve que votre exemple de Renault est intéressant, mais pas forcément le plus efficace, parce que je ne vais pas pleurer sur les salariés de Renault, franchement. Je veux dire, quand on prend, vous parlez des salaires, mais quand on prend la participation, l'intéressement, l'épargne salariale, les primes, la performance, en termes de rémunération globale, ils sont vraiment pas à plaindre par rapport à l'ensemble des salariés français.
Donc c'est
pas
forcément eux qui mettent en exergue. Quand chez Renault ça se passe mal, en cascade ça se passe mal dans tout le salariat.
Mais et quand ça se passe mal chez Renault, ils ont des conditions de départ, ce que je ne souhaite à personne, qui sont ultra favorisées par rapport à d'autres salariés qui ne bénéficient pas de primes de licenciement, de conditions d'outplacement et autres. Donc c'est pas forcément les salariés que je mettrai en avant.
Il y a une différence de sang entre les salariés des boîtes du CAC 40 et les...
C'est Renault qui entraîne la fermeture aujourd'hui de toutes les petites fonderies et les PME. Donc ça a un effet sur l'ensemble du tissu industriel.
Un temps, Renault était appelé le modèle social dans le modèle social.
Ce temps-là est révolu, hélas.
On disait, quand il s'enrhume, l'économie est malade.
Allez, 19h53, c'est l'extra time pour terminer vos avis du soir, parce qu'il faut conclure, hélas, il nous reste deux grosses minutes. Coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, il faut les tenir. Frédéric, 30 secondes, allez.
Petit coup de gueule parce que contre nos politiques, parce qu'ils n'ont pas remarqué la déclaration de Joachim Nagel, qui est président de la Bundesbank, disant... Il faut relâcher les règles, il faut assouplir nos positions sur la dette. Et donc là, il y a une opportunité politique considérable pour parler avec les Allemands. Et notre classe politique, elle est en dessous de tout. Là, il y a un enjeu énorme pour financer. Il dit même, il faut financer les investissements, il faut des avances pour se développer.
C'est ce que dit le patron de la Banque Centrale Allemande. On verra ce que diront les candidats à l'élection législative.
Et Scholz, justement, la coalition, elle a sauté sur le fait que Scholz, il dit, il faut lever le frein à la dette. Oui. Et que la droite a dit, non, on le renforce.
Mais le candidat CDU, effectivement, est pas... et c'est lui qui est favori au passage.
Enfin, oui, on verra, le Bundesbank qui a une opportunité.
Absolument. Julien Damon, 30 secondes, c'est à vous.
Un coup de cœur pour une opération qui s'appelle Hiver Solidaire et qui débute cette semaine. C'est organisé depuis une quinzaine d'années par l'Église et ça consiste à accueillir 5 sans-abri pendant tout l'hiver avec à chaque fois 2 bénévoles de la paroisse, qu'ils soient ou non croyants, qui s'occupent de gérer la situation pendant la nuit et 2 autres bénévoles qui s'occupent du dîner au préalable. Formidable opération qui ne coûte strictement rien au pouvoir public et qui permet aux uns et aux autres de s'impliquer extrêmement concrètement.
Voilà, coup de cœur ce soir de Génamon. Ça s'appelle, on rappelle ?
Hiver solidaire,
à noter.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues.
Bon, le message est passé. Marc Landré, 30 secondes.
Une fois n'est pas coutume, je vais passer un coup de gueule. Il y a 15 jours, les Restos du Cœur ont lancé leur 40e campagne hivernale, campagne de distribution alimentaire, quasiment dans l'anonymat. Tout le monde s'en fout. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a entre 5 et 10% de la population française qui vit de l'aide alimentaire, des banques alimentaires. Ça représente 335 000 tonnes de denrées qui sont distribuées chaque année, l'équivalent d'€1 milliard de valorisation. Et tout le monde s'en fout. On est la 7e puissance économique mondiale et on se fout du fait qu'il y ait 10% de la population qui a besoin des banques alimentaires pour pouvoir vivre et manger correctement.
Voilà le coup de gueule ce soir de Marc Landré sur BFM Business. Merci messieurs d'être venus ce soir. À très vite pour de nouvelles aventures avec grand plaisir. Julien Damon, Marc Landré, Frédéric Bocara, merci messieurs, à bientôt 19h55. On s'arrête pour ce soir, on revient demain. L'Actu Éco revient demain matin avec Laure Closier, bien sûr, 6h-9h, Good Morning Business. Dans un instant, François Sorel, Tech & Co. Bonne soirée, à demain.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.